Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro, et puis le vénard de Litola est encore en train de tourner en Camargue, oh là là. Mais je crois qu'il va revenir, non, il y a encore au moins une ou deux semaines, voilà. Donc comme d'habitude, effectivement, je lis rapidement un texte qui sera sur le podcast à partir de demain, qui présentera un peu rapidement l'émission, et puis bien sûr, on va rentrer un petit peu dans les détails avec notre invité, Pierre Salmon, voilà. Donc en juillet 1936, après l'tentative de putsch militaire en Espagne, le militant anarchiste Martin Millard répondait à la question « De quoi avez-vous le plus besoin ?» Alors j'ai un peu résumé sa réponse, mais je ne l'ai pas modifié, hein, mais j'ai résumé. « D'armes, de mitrailleuses, de canons, de chars, d'avions, de munitions, de télémètres, de radiochronomètres. » Alors que Franco est soutenu par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, la France et l'Angleterre mettent en place une politique européenne de non-intervention visant à interdire l'envoi d'hommes et de matériel de guerre pour soutenir la révolution, la République espagnole. De son côté, le récit mémoriel communiste, largement repris par l'historiographie, met essentiellement en avant les armes provenant du RSS et traite avec mépris l'inefficacité, entre guillemets, des fournitures passant par de divers circuits de contrebande, liés notamment à la solidarité internationale anarchiste, et pas uniquement. Notre invité, l'historien Pierre Salmon, a publié « Un antifasciste de combat, armée l'Espagne révolutionnaire » paru aux éditions du Détour. Travaillant sur diverses archives, notamment liées à la surveillance policière et militaire, il décrit les nombreuses initiatives de contrebande d'armes. Ainsi en France, le Comité pour l'Espagne libre, CEL, qui deviendra la branche française de la Solidarité internationale antifasciste, SIA, en mai 1937, est créé par Louis Leclouin de l'Union anarchiste. À Perpignan, le comité de Cantinal Bar est animé par Maurice Jacquier de la gauche révolutionnaire, courant puis vertice de la SFIO. Le renforcement du pouvoir étatique, l'intégration progressive des milices à l'armée populaire conduisent à une opposition entre révolution et contre-révolution, débouchant sur de sanglants affrontements armés avec les Staliniens lors des journées de mai 1937, puis la venue au pouvoir de Juan Negrín, socialiste en accord avec les communistes pour privilégier la guerre à la révolution sociale. En août 1937, le communiste Enrique Lícer, à la tête d'un corps d'armée, détruit les collectivités libertaires de Catalogne et d'Aragon. Plus tard, la défaite militaire, puis la retirada, à partir du début de 1939, font connaître aux républicains l'accueil, avec guillemets, de la France dans des camps de concentration. À la fin de son livre, Pierre Salmon reprend les paroles datant de 1956 de Charles Ridel, ancien de la colonne du Rookie. La preuve nous a été donnée d'une vie collective possible sans Dieu ni maître. Pourquoi cet exemple ne serait-il valable que pour les heures de haute tension? Pourquoi le destin ne se forgerait-il pas chaque jour? Charles Ridel, ancien de la colonne du Ruti, de l'Union anarchiste, en 1956, disait « La preuve nous a été donnée d'une vie collective possible sans Dieu ni maître. Pourquoi cet exemple ne serait-il valable que... » Ah bah, je suis en train de redire la même texte. Voilà, bah non, c'est à la fin de livre de notre invité. Voilà. Je sais pas, j'ai mis deux fois, peut-être ça m'a plu.
Bonjour, parce que c'est une citation très importante.
Ah bah voilà, donc j'ai bien fait, bien fait. Bon, peut-être avant qu'on rentre dans ce livre qui est très riche, enfin très riche d'informations et aussi de personnages, enfin tout ça passe à travers des individus, puisqu'on veut parler notamment beaucoup de contrebande. Hein. Tu nous dis comment, parce que en fait, j'ai regardé un petit peu quand même comment notre invité, j'ai vu que t'es pas lancé là-dedans au hasard, quoi. Ça faisait pas mal de temps que tu t'intéressais à cet aspect-là, enfin ben, donc à la Révolution espagnole et particulièrement sur l'aspect des armes qui est essentiel. Donc tu peux nous dire un petit peu comment c'est venu et comment finalement tu es arrivé à faire une thèse et puis un livre qui est issu de cette thèse.
Oui, bien sûr. Merci pour cette invitation à parler du parcours de recherche, hein, comment je suis arrivé à cet ouvrage. C'est vrai que c'est un ouvrage tiré d'une thèse et qui reprend une partie, un bon tiers, on va dire, de ce travail de thèse. Ce travail de recherche, hein, qui a été fait dans le cadre d'un doctorat, il s'intéressait à plusieurs choses autour de la question des armements en France durant la guerre d'Espagne. Donc il s'agissait autant des passages d'armes par la France que des achats d'armes en France. Et que les armes donc destinées à l'Espagne républicaine, aussi franquiste, même si ça reste tout à fait marginal. De fait, pourquoi je suis arrivé à cet ouvrage ? Parce que je me suis rendu compte, et c'était un constat même personnel, que quand on regardait cette question, on voyait d'abord les fournitures passer dans le cadre de la non-intervention dite relâchée, c'est-à-dire que l'État français, le gouvernement français décide de relâcher le contrôle, l'embargo sur les armes, et quand on parlait de ça, c'était surtout pour parler des approvisionnements soviétiques. Donc il y avait, pour reprendre le titre de l'émission, une espèce de trou noir sur tout l'autour, pour ces armes qui étaient achetées dans d'autres pays que l'Union soviétique, ou que la Russie plutôt, et aussi par d'autres forces politiques. De fait, la question qui me semblait intéressante avec le cas des fournitures pour les révolutionnaires était qu'on se trouvait dans une pratique qui ne profitait pas vraiment, en tout cas, voire pas du tout, d'un soutien de la part des autorités françaises et qui était un petit peu un miroir renversé de cette non-intervention relâchée, parce qu'à un moment, on ouvre cette frontière assez tardivement d'ailleurs dans le conflit aux approvisionnements destinés à l'Espagne républicaine, on continue à réprimer des opérations de contrebande bien plus petites en volume qui sont destinées aux forces révolutionnaires. Donc, l'objectif était de revenir sur cette partie de mes recherches, même si dans l'ensemble, elles se sont intéressées aux achats depuis la France, je le disais, donc notamment depuis l'ambassade républicaine, il y a plusieurs commissions d'achat, et aussi à tous les passages d'armes, donc des flux maritimes, mais aussi de la plus petite contrebande, dont je parle beaucoup dans l'ouvrage, à travers la frontière. Après, la question est de savoir comment j'en suis arrivé à... Pourquoi faire une recherche sur ce sujet ? C'est vrai qu'au départ, on promettait, on pourrait y revenir hein, sur les archives, mais on promettait une absence d'archives, parce que nous étions sur un phénomène secret.
Oui, même ce qui m'a étonné dans ton cursus, c'est que déjà dans Master 2, tu t'intéressais un petit peu à ce sujet-là. Donc,
tout à fait, je suis tombé dessus. À vrai dire, j'aurais peut-être dû commencer par là, un peu par hasard. Je pars faire... cursus personnel, mais en étant normand, l'intérêt pour l'histoire était plutôt par rapport à cet héritage de la Seconde Guerre mondiale, histoire familiale, collective. J'étais dans les archives départementales du Calvados, et un peu par hasard, je suis tombé, alors que je m'intéressais plutôt aux mobilisations politiques durant le Front populaire, un des navires chargés de centaines de tonnes d'obus qui venaient de Lettonie, de Pologne, et ça cadrait pas du tout avec les informations que je pouvais trouver dans des synthèses en français. Donc j'ai creusé, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs aspects qui n'avaient pas été traités. D'une part, parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'archives, et comme on pensait qu'il n'y avait pas d'archives, on s'était beaucoup intéressé à la parole d'ordre des témoins. Et ces témoins, c'était les anciens dirigeants politiques du Front populaire, des chefs de cabinet comme Gaston Cussin, qui a eu un rôle très important dans le relâchement de la non-intervention, au témoignage de Léon Blum et d'autres. Et de fait, regarder cette pratique par le haut, avec des témoignages d'hommes politiques, ça a gommé pas mal de formes qui étaient d'autres formes du trafic, autant des armes qui venaient de dictatures d'extrême droite, c'est peut-être, ça cadrait moins avec l'image de l'engagement du Front Populaire, que des armes acheminées par des groupes révolutionnaires comme les libertaires français durant ce conflit. Mmh. Donc l'objectif était un petit peu de faire une histoire à part égale, hein, je pourrais dire, pour reprendre des grandes formules, de ces différents engagements durant la guerre d'Espagne. Et une des parties, là, ressort dans cet ouvrage à hauteur d'hommes et de femmes. Hein, c'est ce que j'ai essayé de faire en traçant des trajectoires individuelles dans toute leur complexité. Hein, on pourra revenir sur les motifs de l'engagement.
Mmh, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on va en parler d'ailleurs dans un certain nombre de personnages très précis que tu décris, parce que tout ça, toute cette histoire-là, en particulier celle de la contrebande, ça passe vraiment par des individus. Alors c'est intéressant de savoir quels sont ces individus, leur motivation. Donc ça, je n'anticipe pas. C'est évident que d'abord, c'est dans ton livre, et puis on va en parler aujourd'hui. On a encore un petit peu de temps, on va en faire une pause musicale. Je te propose, pour les auditeurs, et puis même pour nous, de se remettre dans cette ambiance, et comment justement le problème des armes s'est posé. Enfin, bon, il se posait depuis le début, évidemment, puisqu'il y a eu ce coup d'État militaire. Mais bon, voilà, on est en juillet 1936. Est-ce que ce coup d'État militaire a été extrêmement surprenant? Est-ce que tout le monde a été surpris ou pas en Espagne? Alors je parle pas déjà à l'étranger, mais en tout cas en Espagne. Déjà situé là.
Alors pour ce qui est de l'Espagne, ce coup d'État, c'est pas une surprise. Ouais. Encore moins pour les libertaires. Uh-huh. Alors il faut comprendre que la République espagnole. Date de 1931, d'avril 1931, ça reste un régime fragile. On ne sait pas vraiment de quoi la République est le nom. Une République sociale, d'ordre, conservatrice. Et très rapidement, une grande partie de la droite, de l'extrême droite qui avait commencé à faire le jeu de cette République, on refuse de faire le jeu, décroche, continue à participer aux élections, mais vraiment, dès 1935, 34 même, il y a déjà beaucoup de tentatives conspiratoires, militaires, mais aussi d'organismes civils, qui sont parfois difficiles à lire parce qu'ils viennent de différentes forces politiques en même temps. Donc, les historiens, je vais passer sur le détail, mais se demandent si c'est conjoint, si ce sont des initiatives parallèles. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la peau de cette République. Et les républicains eux-mêmes sont avertis. Il y a des services de renseignement, quand bien même ils sont mal développés en Espagne. Donc l'appareil d'État ne veut pas trop y croire. Et toute une littérature sur Azaña, notamment, le président de la République, qui dit non, mais c'est pas vrai. De toute façon, si nous, on agit contre justement les militaires, ce qu'ils vont faire quand même, ils en écartent une partie, ils en suspendent d'autres, on risque de leur donner un motif. Après, certains aussi adhèrent d'une certaine manière au discours que transmettent ces militaires et ces forces politiques, parce que cette préparation du coup d'État, c'est pas seulement des armes et la préparation d'une sortie de caserne. C'est aussi une intoxication régulière dans la presse, au Parlement. On fait croire, on sort des faux chiffres, on fait croire un danger chaotique, anarchiste. Et certains adhèrent à ça. Hein, ou certains, en tout cas, disent que c'est quand même en partie vrai, qu'il y aurait besoin de remettre de l'ordre, qu'il y a quand même un problème avec la gauche révolutionnaire dans ce pays. Alors qu'à cette époque, on est plutôt sur un rapprochement. C'est pas le cas de toutes les gauches, c'est très complexe. On est sur des millions de militants, mais on est plutôt sur une tendance d'un rapprochement de certaines forces libertaires non pas de participer à un gouvernement, mais en tout cas de soutenir l'idée d'être avec un Front Populaire.
Faut quand même rappeler, enfin pour les électeurs, toi je comprends rien, mais qu'aux élections qui a amené justement au pouvoir, enfin ce gouvernement, pour la première fois, alors bon, faut le dire clairement, la CNT n'a pas appelé à voter. Elle n'a pas fait campagne, comme elle faisait habituellement, une campagne de masse pour l'abstention.
Exactement.
Et, enfin, ça, je ne comprends rien. Et donc, c'était ça. C'est-à-dire que, bon, on laisse passer ça, mais en plus, je sais qu'il y a plus ou moins eu des négociations par rapport à la libération du prisonnier éventuel. Enfin, en tout cas, c'était un peu ça. Oui. On ne vous contre pas, mais on n'est pas directement partie prenante du pouvoir à ce moment-là.
Plutôt dire qu'ils soutiennent, on pourrait dire qu'ils en acceptent l'idée.
Ouais.
En fait, on pourrait résumer de cette manière. Donc, en tout cas, on est plutôt sur un rapprochement. Le tableau dépeint, et qui d'ailleurs, qui est une image qui va être facilement transmise en France et ailleurs, ne correspond pas toujours à, vraiment, même du tout, à l'état de la réalité.
Et une autre chose, avant que tu continues, quand même important, sur l'éventail politique, et à chaque fois, quand je parle à des personnes qui ne connaissent pas trop ce qui s'est passé en Espagne sont extrêmement surpris quand on leur dit, enfin la réalité, tu dis quelques mots là-dessus, que le Parti communiste en Espagne était très faible à ce moment-là.
Oui, exactement. Hein, on est sur un parti qui compte quelques dizaines de milliers de militants et qui d'ailleurs sont placés dans certaines régions, notamment dans les Asturies, Madrid et d'autres régions. Mais, donc on est sur un petit parti qui est assez actif, mais qui reste incomparable avec, on dépasse CNT le million de militants, et même d'autres organisations comme les organisations socialistes hein, qui sont très très...
L'UGT, quand même,
l'UGT qui est quand même très très forte et avec au sein de l'UGT des tendances assez dures hein, au niveau syndical. Des fois on comparerait un peu l'histoire de l'UGT de la CGT en France, mais en fait l'UGT est sur des positions bien plus radicales.
Des alliances UGT-CNT selon les moments et selon les endroits, tout à fait correct, hein. D'après les compagnons, en tout cas de l'époque. Hein.
Tout à fait, donc on se retrouve dans cette situation et pour revenir sur la préparation de ce coup d'État, les anarchistes, là il faut déconstruire un peu une idée, bon peut-être pas pour les auditeurs de cette émission, mais certains diraient que l'anarchisme c'est l'absence d'État, d'organisation, de tout. Il y a des services de renseignement, il y a d'autres organismes et ces services de renseignement sont très bien renseignés sur la préparation du coup d'État. Ils donnent pas mal d'informations à la généralité en Catalogne ou aux autorités, aux carabiniers et d'autres auprès du gouvernement central. Et ces informations sont un peu mal utilisées, trop tardivement. En tout cas, il y a un atermoiement du gouvernement républicain central qui n'ose pas trop agir face à ce coup d'État et qui arrive, donc sans aucune surprise, même si on n'en sait pas exactement quelle pourra être cette date et qui exactement se soulèvera ou pas. Passé le coup d'État, ce qui se passe ensuite, c'est et ça va être plutôt une surprise, c'est la résistance de la quasiment toutes les grandes villes dans un premier temps, en tout cas sur le versant est, au centre à Madrid, et des villes qui vont résister. Et on a un peu grossi le tableau sur uniquement la résistance populaire, mais en tout cas, conjointement avec une résistance populaire, et aussi des forces de l'ordre qui soit choisissent de ne pas s'engager, soit choisissent complètement de s'opposer au coup d'État dans des forces de police, de maintien de l'ordre. Et ça fait que ce coup d'État, ça va être, selon le point de vue, semi-échec, semi-réussite. Et rapidement, la situation se bloque avec une République qui est incapable d'enrayer l'avancée des militaires qui sont mieux armés, qui vont débarquer après quelques jours, qui vont aller au Maroc, ensuite remonter en Espagne par l'Andalousie. D'un autre côté, incapacité de résister, mais on est quand même dans une situation qui reste assez statique dans pas mal de régions et donc va se poser cette question des armes. Cette question des armes se pose dans un contexte bien précis parce que dans une bonne partie du pays, les forces prolétariennes qui ont activement participé à la résistance au coup d'État ouvrent la brèche pour promouvoir, pour installer une révolution sociale. C'est le cas à Barcelone, c'est le cas en Aragon et dans d'autres régions du pays. Et ça, cette situation, elle affaiblit grandement le gouvernement central républicain qui est plus capable d'exercer en grande partie le pouvoir sur une bonne partie de cette zone républicaine, ce camp républicain, y compris dans certaines régions où les généralités ou de Catalogne ou d'autres régions vont exercer la réalité du pouvoir. Et ça, à l'extérieur du pays, ça va renvoyer une image absolument négative d'État failli, sinon de gouvernement rouge, que le gouvernement central ne serait qu'un écran de fumée derrière lequel se cacheraient les pires révolutionnaires, tout en rappelant qu'à cette époque, la révolution, c'est une fête, mais elle s'accompagne aussi de tueries, de masse, de personnes du clergé, de la noblesse, qui sont considérées à tort ou à raison comme des soutiens, des complices de ce coup d'État. Et ça envoie une image extrêmement négative. Et cette image extrêmement négative est, à mon sens, je ne suis pas le seul à le défendre, une des raisons qui explique cette non-intervention. Donc c'est pas seulement c'est aussi, on pourrait y revenir, des facteurs extérieurs, mais aussi du point de vue de la France ou d'autres pays comme l'Angleterre, c'est la peur de s'engager dans une sale guerre. Et donc il faut mettre en place une politique qui gèle un peu la situation du conflit. Et d'ailleurs, même les républicains, le gouvernement central, ne sont pas forcément contre l'idée d'une non-intervention au début, parce qu'ils ont l'espoir que ça va freiner l'assistance militaire de l'Italie et de l'Allemagne à Franco, qui est une assistance militaire relativement à eux, mais qui sera sans commune mesure avec celle qui aura lieu à partir de novembre et début de l'année 1937. Donc il y a un peu cet espoir que Et cet espoir d'un conflit qui pourrait être gelé, ça ne fonctionne pas. Aucun pays,
Je propose une petite pause musicale maintenant qu'on a un peu. On s'est mis dans l'époque là, et puis avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir et qu'ont pu avoir les militants à l'époque.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passent le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane, et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers. Et sans patron, tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à madame, c'est l'anarchie, la liberté dans l'espérance. Ils ont osé la vivre aussi. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer la Confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer.
Pardon si vous avez mal à l'Espagne, c'était une chanson de Sergio Girolio qui a été reprise sous le titre Juillet 36 par d'autres, mais on verra ça tout à l'heure, je crois que je vais vous en passer. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Donc toujours bien sûr avec Pierre Salmon autour d'un livre Un antifasciste de combat, Armée l'Espagne révolutionnaire, donc paru aux éditions du Détour. Voilà, donc on était un petit peu au déclenchement justement de l'insurrection fasciste, voilà, qui nous avait un peu présenté, mais je voudrais quand même que tu... Enfin, tu en as parlé de la non-intervention, mais que tu développes un petit peu, parce que... D'abord, c'est une politique qui a été mise en place extrêmement rapidement, parce que, bon, je crois qu'ils ont commencé, enfin la France et l'Angleterre ont commencé déjà début août, et il y a un texte qui s'est élargi au niveau européen. Donc, presque d'entrée. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. On est dans des nations démocratiques, il y a un coup d'État fasciste et on se débrouille pour qu'il n'y ait aucun soutien, en tout cas militaire ou autre, qui puisse arriver, et, y compris on prend les moyens de contrôle. On est quand même un gouvernement en France pendant le temps de la France, Front Populaire. Bon, il y a eu une classe ouvrière qui a pas mal bougé en 36. Alors, il y a quand même pas une crainte qu'il se passe un mouvement, cette réaction populaire très forte en Espagne qui augure d'une révolution ne s'arrête pas aux Pyrénées, quoi. Enfin, par le sud, j'entends. Est-ce que ça, c'est pas un élément qui a pu jouer, enfin c'est quand même assez étonnant, cette rapidité de tu vois.
Tout à fait.
Enfin,
ouais.
Tu as commencé à en parler, mais donc
avant de revenir sur cet aspect-là qui me semble vraiment très important pour comprendre cette non-intervention, peut-être quelques clés pour les auditeurs et auditrices sur la mise en place effectivement de cette non-intervention. Donc on a le conflit qui éclate entre 18-19 juillet hein, selon les régions en Espagne, et rapidement les nouvelles remontent en France. Bon, contrairement à ce qu'on lit parfois, déjà les canaux diplomatiques sont assez alarmistes, qui reviennent par la France en disant déjà qu'il y a des risques. En France comme en Angleterre, on a averti qu'il y a peut-être la préparation d'un coup d'État en Espagne, que le dirigeant de ce coup d'État serait peut-être à Pampelune. En fait, c'est tout à fait exact, c'est Emilio Mola qui est dans cette région et qui prépare effectivement. Donc on a quelques informations assez précises qui remontent. Et quand le coup d'État éclate, la France vraiment hésite à aider, ne pas aider. Il y a des divisions au sein du gouvernement qui d'ailleurs dépassent les tendances politiques sur cette position par rapport au gouvernement républicain. Et après la décision de quelques envois d'avions et d'armes à la fin du mois de juillet et au tout début du mois d'août, il y a la décision unilatérale par la France, et c'est la France qui a l'initiative, c'est pas l'Angleterre, de mettre en place une politique de non-intervention qui, durant l'été 1936, est rejointe par 27 puissances européennes. Donc c'est un plan européen, et c'est un plan européen qui supplante en bien des cas les pratiques internationales, parce que on s'assoit sur la SDN qui était déjà bien moribonde depuis l'agression italienne en Italie, et on propose qu'un pays agressé, intérieurement par un coup d'État, mais aussi qui très rapidement, on le sait, il y a un soutien extérieur de l'Italie fasciste avant même, ça le sera après, avant le coup d'État, mais très rapidement de l'Allemagne. Et donc, face à cela, c'est la décision d'une neutralité qui met en fait à pied d'égalité.
Il y a une demande officielle qui a été faite, je crois, de soutien par le gouvernement.
Tout à fait, le gouvernement républicain, si ma mémoire est bonne, le 21 juillet, le 19 juillet, peut-être même, Giral, qu'envoie une pétition en disant « Sommes surpris par un dangereux coup d'État, est-ce que vous pouvez envoyer des armes ?» Et une partie de ces armes, d'ailleurs, sont envoyées. Il faut savoir aussi que le gouvernement républicain essaye, au départ, de régler rapidement la chose, espère le faire, ne pense pas non plus que l'ampleur sera toujours aussi importante. On sous-estime peut-être la préparation de ce coup d'État, parce qu'il y a eu plein de coups d'État qui ont été effectivement des échecs. Et on espère que si on bloque le passage du détroit de Gibraltar, l'affaire sera close. Mais ça sera une autre histoire, puisqu'il y aura un pont aérien qui va être mis en place. Donc, on ne demande pas autant d'armes au départ non plus à la France aussi pour cette raison-là. Bon, le fait est qu'au début du mois de septembre 1936, il y a la mise en place à Londres d'un comité dit de Londres de non-intervention. Et c'est un peu une première, parce que même si on s'assoit sur la SDN, on reprend des pratiques de négociation avant la confrontation. C'est une logique du droit international, de l'après-première guerre mondiale, on doit négocier. Et déjà cette logique de « on doit négocier absolument, on évite le rapport de force avec des puissances fascistes à cette époque » dit aussi beaucoup la conception, en fait, du droit international, d'une certaine impasse qui a été critiquée des gouvernements démocratiques européens et parlementaires. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette non-intervention ? Et je le disais tout à l'heure, il y a des images qui reviennent de l'Espagne, qui sont d'ailleurs bonne partie fondées, qui sont celles de tueries organisées au sein du corps républicain, pas des organisations anarchistes, mais pas toujours d'ailleurs. Et ça alimente en France une peur de la contagion révolutionnaire. Dans les deux cas, on se trouve avec l'élection de Front Populaire, et ces élections de Front Populaire, on les a lues de manière un peu séparée. Et on a oublié de faire le pont sur la réaction anti-communiste, sinon anti-progressiste, qui a une assise véritablement transnationale. Et les droites et extrêmes droites à l'époque, elles font circuler des écrits, parfois même des écrits qui sont, on dirait maintenant, des fake news, avec des faux chiffres à l'appui, pour faire croire à l'imminence d'un coup d'État communiste, judéo-communiste, maçonnique, tout ce qu'on veut. On met plusieurs titres à ça complètement... On est dans une logique conspiratoire, dans une lecture conspiratoire des faits. Et puis en France, on était passé avec une période de grève. Et déjà, la période de grève autour de l'élection du Front Populaire Français avait agité à droite, mais pas seulement, une peur de cette contagion révolutionnaire, avait donné un petit peu de la crédibilité à ce discours. Et quand la guerre d'Espagne éclate, des auteurs comme Jacques Bardoux, Pierre Héricourt et d'autres disent « Regardez, aujourd'hui l'Espagne, demain la France. Le plan a été déjoué, ça n'a pas marché en France par chance, mais ça peut arriver d'un moment à l'autre. » Et en lisant les rapports de police, le renseignement militaire, la préfecture de police, surtout le renseignement militaire d'ailleurs, on voit dans des rapports, on parle de hordes de révolutionnaires qui sont arrivés en France, on parle de Perpignan, de certaines villes seraient déjà à main des révolutionnaires, donc il faut faire quelque chose, on parle d'un cordon sanitaire autour de l'Espagne, il faut contrôler cette frontière pour éviter qu'il y ait des flux de personnes et puis aussi éviter que dans l'autre sens, qu'il y ait des soutiens qui soient apportés à cette cause révolutionnaire qui, par contre-coup, pourrait aussi toucher la France. Donc, cette lecture anticommuniste, et quand je dis anticommuniste, aussi anti-rouge, on mettrait guillemets, en général, a vraiment été une motivation dans la mise en place de ce plan de non-intervention et de son application concrète, en fait, par des agents de surveillance, de répression et d'autres.
Oui, mais quand même au sein du Front Populaire, le Parti communiste, il en faisait un point parti. Quel est français, quelle est son attitude alors à ce moment-là par rapport à ce que tu décris?
Alors le Parti communiste
À ce moment-là,
oui. Alors déjà sur du long terme aussi, il a eu une logique de rapprochement, on le sait, avec l'établissement des Fronts Populaires, de participer. Aussi au gouvernement. Alors, la lecture du parti n'est pas forcément celle des militants, parce que certains militants, notamment ceux de la première heure, certains d'ailleurs proches des milieux anarchisants, seront engagés dans des pratiques illégales, départ en tant que volontaire et de la contrebande. Et on sait qu'au départ, il y a quelques organisations de contrebande. Et le parti communiste considère qu'elle n'est pas efficace, cette contrebande, qu'elle est trop artisanale, qu'il faut passer à un stade supérieur. Donc, ce parti communiste abandonne cette pratique totalement illégale et va plutôt pousser pour qu'on ait quelque chose d'un autre stade, un autre niveau d'une pratique qui pourrait bénéficier, qui ne serait pas tout à fait légale, mais bénéficier du soutien d'organisations étatiques, à commencer par la France. Donc le Parti communiste va pousser en ce sens-là. Ça, c'est pour une partie des militants. Cette décision est connue dans certains cercles, mais c'est une décision qui est parfois un secret de polichinelle, mais c'est pas une décision politique reconnu au Parlement, dans la presse, au Parlement, le Parti communiste va refuser de voter la confiance à Léon Blum. Donc il y a des crispations et qui vont se ressentir pendant toute la durée de la guerre et qui seront d'autant plus fortes à partir de 1938 quand le gouvernement français va se détacher de cette logique de Front Populaire et puis va arrêter d'aider l'Espagne en refermant cette frontière, parce qu'on dit toujours non-intervention, relâcher l'ouverture de la frontière, mais la frontière se referme. Donc ce parti communiste est sur cette position par rapport à la question des approvisionnements en armes. Ce qu'ils jugent, eux, très important aussi, c'est d'organiser une assistance humanitaire. Et ils le font à grand renfort de publicité, de propagande. Et ça marche. C'est-à-dire qu'à ce point-là, se penser antifasciste, c'est s'identifier aussi en 1936, 37, 38 à la lutte des Espagnols contre les fascistes, l'Allemagne, l'Italie, Franco. Et qui incarne le mieux cette assistance à l'Espagne républicaine? Eh bien, ce sont les communistes grâce à cette assistance humanitaire. Ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs, les anarchistes, les socialistes s'en rendent compte, mais ce sont ceux qui ont gagné la bataille du récit, d'une certaine manière, et qui ont réussi à incarner cette solidarité.
Ils ont aussi peut-être plus de moyens matériels.
Effectivement, il y a des moyens matériels qui sont, par rapport à l'international socialiste anarchiste, sans commune mesure, une habitude de mise en récit, de propagande, il y a un rapport au récit de sa propre action militante qui est peut-être aussi différente.
Oui, parce que, bon, finalement, je vais être très schématique, mais l'international communiste est effectivement, enfin, international, dans ses représentations locales en Espagne est très faible. Par contre, est beaucoup plus forte dans le mouvement, on va dire, socialiste au sens large du mot, en France et dans pas mal de pays. Et donc, en plus, le lien Parti communiste, URSS, ça se fait très bien. Enfin, compris, on ne va pas parler de Duclos ou d'autres personnes. Donc, il y a forcément une stratégie qui a été mise en place, que tu es en train de décrire. Mais est-ce que tu penses, si tu veux, que le... Enfin, toi qui as travaillé sur des documents, que dès le départ, alors là, on va s'adresser pas à grand Staline, mais en tout cas à l'international communiste, ça, je personnalise pas trop, même si Staline, ça compte, à penser que... analyser la situation en disant, de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait une révolution en Espagne parce que ce n'est pas la révolution qu'on veut, en tout cas, ou pas. Est-ce que ça s'est fait par la suite, etc. C'est pour toujours rester dans la période. Alors, c'est peut-être pas facile d'avoir des documents ou de savoir. En plus, il y a peut-être des positions nuancées qu'on ne connaît pas. Enfin, je ne sais pas si tu as eu des documents là-dessus. Moi, j'ai une opinion, mais pas basée sur... c'est plus en regardant comme ça les choses de l'extérieur. Donc, je n'ai pas travaillé dessus.
Alors, ce que dit la documentation, oui, et l'état, et aussi l'état de connaissances, hein, historiographiques, des plusieurs chercheurs, mm-hmm, qui ont travaillé sur la question, c'est que déjà, il y a un enchevêtrement un peu de logiques qui peuvent, mm-hmm, parfois être contradictoires. Mm-hmm. D'une part, PCF, qui joue un rôle très important au sein de l'international communiste, oui, avec les anciens d'Italie, bien notamment. PCF, qui va agir, hein, pour à l'intérieur de l'international, pour aider cette Espagne républicaine sur les différents fronts diplomatiques, humanitaires, militaires, en organisant des achats en URSS, mais pas seulement. Et d'autre part, l'URSS, qui on connaît le lien URSS international communiste, mais qui, bah, l'URSS est plutôt du côté de Staline, n'avait pas vu, pour le coup, vraiment la situation espagnole comme ni une opportunité, ni un intérêt, avec un grand intérêt avant que le début de la guerre, et un peu embarrassé parce que n'a ni les moyens, ni l'envie d'intervenir. Et ce sur quoi s'accordent certains spécialistes, comme Daniel Kowalski, c'est de dire que finalement... le jeu de l'Espagne, de l'URSS, a peut-être été de se dire, bon, on est dans une logique de front populaire, on est dans une alliance avec les pays démocratiques comme la France et l'Angleterre. Si eux, ils sont d'accord pour qu'on agisse en sous-main, on le fera, et c'est peut-être comme ça que ça peut marcher. Mais l'URSS, rapidement, n'a plus les moyens et envie de se dégager parce que la question ne l'intéresse pas autant, parce que ici, on voit pas trop ce qui se passe, nous, du côté français, mais il y a les questions chinoises qui dans le calendrier, à partir de 37, est très important du côté soviétique. Alors ça, c'est un peu pour le calendrier général quand éclate cette guerre d'Espagne. Après, il y a la question de la révolution. Qu'est-ce que fait l'URSS ? Ben, et voilà, d'un mauvais oeil, déjà, l'idée de s'impliquer dans un pays où on n'a pas l'exercice du pouvoir qui est centralisé, qui n'est pas organisé. On sait qu'il y a des émissions politiques.
Voilà, sur place, qui est très faible. Hein.
Tout à fait, on a un parti qui est faible, mais les communistes vont tirer un grandement parti.
Ah oui, après,
ça, voilà, de la réorganisation d'une part de l'armée sur un modèle, sur des milices, pas que communiste, mais en grande partie communiste, avec le fameux 5e régiment. Et d'autre part, on connaît très bien les émissions politiques et le rôle des services de renseignement en Espagne. Le souci est que pour l'URSS, il faut centraliser l'effort de guerre. Et c'est là où il y a un accord avec Negrín qui va avoir, à partir d'un certain moment, des grosses crispations aussi avec l'URSS, mais il faut centraliser l'effort de guerre. Il faut tout mettre un peu sur le même canal. Il faut arrêter avec ce qu'on appelle la dispersion de l'effort de guerre. La dispersion de l'effort de guerre, c'est trop de pouvoir à la généralité de Catalogne ou de Valence, mais c'est aussi trop de pouvoir à des forces politiques autonomes, comme peuvent l'être des comités révolutionnaires locaux ou même le comité des milices antifascistes de Catalogne. Et de fait, l'URSS va, les soviétiques vont pousser pour mettre fin à cette dite dispersion de l'effort de guerre, et ça très rapidement. Ils vont trouver sur l'aile droite du Parti Socialiste des personnes comme Negrín et d'autres qui sont d'accord avec eux, et là va se jouer en fait un débat qui, je dirais, plus que stalinien contre anarchiste ou socialiste, qui est vraiment un débat sur la centralisation de l'effort de guerre, parce qu'on va retrouver ça dans tous les domaines. L'économique, l'organisation de l'économie, je veux dire, l'espionnage, l'armée, la question des armes. Et sur ça, il va y avoir certains socialistes qui se retrouveront sur... comme d'ailleurs Prieto, qui est quand même aussi sur l'aile droite du Parti Socialiste, qui dit bah non, il ne faut pas tout centraliser, il ne faut pas tout mettre en URSS. Il n'est pas anarchisant du tout, Prieto, mais il voit ça peut-être aussi d'un mauvais œil de tout mettre entre les mains de l'URSS, qui, on le sait assez rapidement, n'est pas toujours un partenaire fiable. Les armes coûtent cher, et surtout, l'URSS envoie beaucoup d'armes au début du conflit, on renvoie beaucoup en 37, mais les approvisionnements sont assez irréguliers. Et donc, on se dit que ça va vite poser un problème, parce qu'on a besoin de beaucoup d'armes, et d'armes de qualité, et de certaines armes que l'URSS fournit tardivement, ou de façon aussi un peu inégale par rapport aux demandes. Enfin, il y a un peu un déséquilibre.
Donc, est-ce qu'ils arrivent à fournir des armes genre aviation, des...
Oui, ça, c'est un point fondamental, parce que les soviétiques... alors, il y a l'aviation, différents pays, je peux y revenir, mais le fournisseur d'avions de qualité et de matériel lourd, type char, ce sont les soviétiques. Et les avions soviétiques I-15, I-16 fournis à cette époque sont parmi les meilleurs sur les champs de bataille, vont être un peu doublés au fil du conflit, mais vraiment, ce sont des avions d'excellente qualité. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui veulent ou qui peuvent le faire. La France envoie pas mal d'avions, mais ce sont des avions qui sont pris souvent sur le marché privé. Il y a peu d'avions militaires français, il y en aura quelques-uns, des bons avions militaires comme des Morane ou d'autres. Pour reprendre les mots d'un militaire espagnol qui est chargé de l'achat d'avions en France et depuis la France, il dit les avions français c'est de la saloperie. C'est un rapport à un espagnol, il dit le mot français saloperie. Parce qu'on est sur un moment où les révolutions, les sauts technologiques sont très importants et un avion qui a pu être fait un ou deux ans avant n'est plus vraiment viable sur un champ de bataille, en tout cas pour des missions de combat. Et ce sont ces avions-là qu'on fournit aux républicains espagnols, soit des avions désarmés, soit des avions démodés, sinon les deux. Donc c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Il y a que les soviétiques qui fournissent des avions de grande qualité. Ils le feront surtout au début et à la fin du conflit, oui.
D'accord, écoute, je propose une deuxième pause musicale, Monique.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades, comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers. Et sans patron, tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici à madame c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vivre aussi.
dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la confederación.
Eh bien, c'était l'interprétation de René Binamé de la chanson de Sergio de Royo, Pardon si vous avez mal à l'Espagne. Et là, le titre, c'est Juillet 1936. Vous écoutez toujours Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc avec, bien sûr, notre invité Pierre Salmon autour d'un livre, et même au-delà d'un livre, de tout le travail qu'il a pu faire. Donc le livre, en tout cas, s'appelle « Un antifascisme de combat, armer l'Espagne révolutionnaire », paru aux éditions du Détour. Donc on était dans ses premiers jours, mais finalement c'est important ces premiers jours, parce que je pense que, enfin j'y étais pas bien sûr, mais pour beaucoup de militants, quel que soit d'ailleurs leur choix politique, étaient conscient relativement de l'enjeu de l'époque, y compris de l'enjeu international, c'est-à-dire que on rentrait dans un système qui allait déboucher sur une guerre, je vois que beaucoup en étaient conscients, et dans un environnement international donné, qui faisait, comme le dit notre invité, en tout cas, au niveau européen, il ne fallait pas compter sur un soutien pour les armes, ou peut-être on verra qu'il y a eu peut-être quelques moyens de les tourner. Et puis, au niveau international, seul l'URSS, en fait, avait les moyens d'aider avec des armes genre avion, etc. Mais peut-être aller utiliser cette aide pour essayer de mettre en place un certain nombre de choses en Espagne, ça on va le voir par la suite. Donc parmi ces analyses et ces envies de faire des choses, il y a très rapidement les choses sont mises en place, en dehors justement de ce bloc de l'international communiste, donc tu peux en parler en plus. Et puis parler aussi de personnages genre comme Lecoing, Maurice Jacquier, parce que tout ça, l'histoire, c'est effectivement des documents qu'on voit, c'est des décisions, c'est des discours, mais c'est aussi des individus. Et encore, on est loin d'accéder. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, ce travail qu'a fait Métron, en général, je ne parle pas spécialement, parce qu'il a essayé de faire comprendre que l'histoire, va l'essayer avec plein d'autres, c'est des individus, quoi. Certes, certains sont dans une position de décision, etc., mais il n'empêche que c'est quand même les individus qui ont fait les choses. Donc, si tu peux en parler, justement, Jean de Lecoing, le CEL...
Oui, bien sûr, oui. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, et parfois on avait peut-être un peu oublié dans l'historiographie, en tout cas la plus en vue dans les synthèses en France, c'est les Espagnols. Et d'abord, les missions partent d'Espagne, et des comités qui sont montés, des personnes qui sont mandatées en France pour acheter des armes, en connaissance de cause, ou pas trop d'ailleurs. Ce que font ces personnes, c'est qu'elles vont contacter des militants avec qui elles étaient déjà en relation, et ce sont souvent des militants espagnols qui avaient vécu en France, qui avaient été installés en France, qui renouent contact quand le contact avait même été rompu, c'est pas toujours le cas, et ils viennent en France et ils rencontrent des libertaires comme Louis Lecoing, donc il avait des relations fortes avec les anarchistes espagnols depuis longtemps, parce qu'il était à l'origine des comités de soutien en défense des anarchistes comme Durruti, Ascaso et d'autres qui avait été réprimé et qui risquait une expulsion et une exécution en Espagne. Et donc, Louis Lecoing va jeter les bases des premiers comités de soutien à l'Espagne, et dont le but est de fournir toute l'assistance possible et nécessaire aux révolutionnaires. Alors dedans, on compte des vivres, du lait concentré et des armes. Et donc, il y a avec ça l'organisation de contrebande très rapidement, le départ de volontaires. On pourrait y revenir, ça va pas forcément de soi pour des groupes d'extrême gauche, et notamment Louis Lecoing, qui est quand même un des premiers, en tout cas objecteurs de conscience les plus visibles à cette époque en France. Il a déjà fait beaucoup de prison pour son engagement antimilitariste et pacifiste. Et d'autres, comme Jacquier, qui lui fait partie de l'aile gauche de la SFIO, c'est un peu avec le pi, dans la branche pivertiste, c'est un peu, pas une anomalie, mais on a cette branche dans la SFIO où on a une gauche révolutionnaire qui est vraiment sur des positions révolutionnaires, qui va quitter d'ailleurs la SFIO au bout d'un moment, qui va faire scission. Et Pivert fait partie au départ de la présidence du Conseil, va quitter cette présidence du Conseil après quelques mois. Et certains militants proches comme Maurice Jacquier sont chargés d'organiser le soutien à l'Espagne et notamment la contrebande depuis Perpignan, où plusieurs se retrouvent pour rentrer, pour aider la cause révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de ce moment-là, on regarde un peu et des fois, on a beaucoup rejoué le jeu des divisions qui sont importantes et très structurantes entre staliniens, non-staliniens, différentes tendances, mais quand on lit pas mal de militants de cette époque, le but c'est d'aider la révolution, le camp républicain, le camp antifasciste. On se dit que l'urgence est de contrer ce coup d'État et d'organiser un demain plus radieux et sinon révolutionnaire.
Je crois d'ailleurs qu'à Perpignan, il y avait certains communistes, il y avait évidemment les pivertistes, il y avait des anarchistes.
Tout à fait.
Et en plus, connaissant un peu l'historique de la CGT, moi ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des... En tout cas, entre pivertistes et anarchistes, à l'intérieur de la CGT, il y a eu des positions très proches.
Tout à fait, oui.
Vis-à-vis des positions bolcheviques, par exemple, des choses comme ça.
Exactement.
Donc c'est pas étonnant qu'au niveau local, si tu veux, il y ait ces possibilités-là.
Oui, et puis quand on regarde à l'échelle des individus, c'est des collaborations entre voisins, entre militants. Des personnes ont pu être, par exemple, à la CGTU, la branche dite unitaire, qui avait fait scission avec la CGT sur des logiques anarchisantes et bolchevisantes durant le conflit. Donc, on se retrouve avec ces alliances. Alors, effectivement, ces divisions, il ne faut pas les nier. Avec le rôle des staliniens, vont être très structurantes, vont se rejouer avec force en France et en Espagne et ailleurs, mais vont donner lieu aussi à des alliances qui peuvent parfois paraître surprenantes entre des groupes socialistes et anarchistes qui veulent justement contrer cette influence communiste, donc une logique anti-stalinienne de gauche qui va créer des nouvelles logiques militantes occasionnelles ou plus durables.
En plus de faire un programme commun, il s'agit de se mettre ensemble pour
tout
aider à contrer une attaque fasciste, en fait. C'est tout à fait compréhensible que des militants de base, ils ne sont pas bornés, aient envie de faire des choses ensemble, sachant qu'ils n'ont pas à passer vraiment d'opposition forte, tu vois.
Exactement, et de cette même manière, on a opposé parfois un peu de manière un peu caricaturale l'action de la CNT et de la FAI par rapport au gouvernement, et on retrouve certains militants qui durant tout le conflit collaborent avec des instances centrales républicaines, parfois même au sein de l'ambassade pour acheter des armes. Donc on a créé peut-être des lectures un peu compartimentées qui à l'échelle des différentes personnes ne fonctionnent pas toujours, parce que là encore c'est l'urgence du moment, c'est des choix individuels et collectifs, et puis à l'intérieur des différentes structures il y a différentes tendance. On le disait pour la CGT tout de suite, mais ça marche aussi pour la CNT, qui est divisée entre un groupe plutôt jusqu'au boutiste, révolutionnaire, on pourrait dire, et d'autres groupes plutôt pas réformistes, mais qui peuvent accepter l'idée d'un soutien, en tout cas au sein des centrales sénétistes, d'un soutien au gouvernement, en tout cas. Donc il y a cette division qui existe, il y a ces tendances, et puis la guerre crée des nouvelles questions et apporte aussi ses propres réponses.
Et peut-être alors, juste pour prolonger dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est quand même important de se rendre compte qu'il y a quand même des divisions, y compris au sein de ce qu'ont pu faire le mouvement anarchiste français en soutien. Là aussi, dès le départ, en fait, il y a eu... alors, c'est pas du tout une critique, c'est pour bien comprendre. Par exemple, si je me souviens bien, la CGTSR était quand même assez opposée de travailler avec des gens en dehors des anarchistes. Pour des raisons, peut-être parce qu'ils avaient vécu un certain nombre de choses, peu importe, il ne s'agit pas de condamner. Louis Lecoing, lui, était vraiment favorable. De toute façon, il disait, il faut aussi qu'on bosse aussi avec d'autres. Enfin, il y avait ces divisions-là. En plus, il y avait certains qui défendaient C'est vrai que dans le monarchisme, s'investir dans le militarisme, enfin pas le militarisme, mais avoir des armes, etc. Enfin, il y a tous ces problèmes-là qui ont dû jouer un petit peu. Parce que même s'ils sont apparus encore plus forts plus tard, quand il y a eu quatre ministres, on en parlera un peu plus tard, hein, de la CNT qui ont participé au pouvoir, où là, c'est bon, vraiment, en France, je sais qu'il y a un certain nombre d'anarchistes qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Mais déjà, dès le départ, il y avait quand même certaines divisions, oui. Mais qui, au niveau des militants de base, pouvaient se traduire par diverses attitudes.
Oui, oui. Alors, le cas de la CGTSR est intéressant, hein, parce que il y a, chez la CGTSR, une volonté révolutionnaire qui rejette l'idée d'une collaboration avec le gouvernement. Et quand la CNT, donc la structure la plus importante de l'AIT, l'Association internationale du travail, décide de collaborer, d'abord de soutenir et ensuite de participer au gouvernement, la CGTSR va vraiment critiquer ce choix, avec Pierre Bénard notamment. Et là, quand au début du conflit, il y avait des logiques unionistes au sein des tendances libertaires françaises, où toutes les structures étaient ensemble, très rapidement ça éclate, parce qu'il y a des divisions sur doit-on collaborer avec des mouvements réformistes ou non, la CNT fait en sorte, et c'est pour ça qu'elle s'appuie sur le comité pour l'Espagne libre avec Louis Lecoing, de marginaliser la CGTSR, pour sortir un peu de cette impasse au sein de l'AIT, même si l'AIT continue à fonctionner, et elle veut élargir. Du point de vue de la CNT, c'est de se dire on peut pas réussir si on n'arrive pas à élargir sur des bases réformistes. Donc il faut élargir, il faut sortir de cette logique purement révolutionnaire. Et donc s'appuyer sur des personnes comme Louis Lecoing pour organiser la solidarité antifasciste, les envois d'armes, mais aussi humanitaires, entre autres. Et ça, ça crée une vraie crispation et qui est dès le début du conflit et qui se résout pas vraiment d'ailleurs et qui ressort avec certains événements, notamment les événements de mai 1937, quand des anarchistes aux côtés du POUM se font réprimer par le gouvernement central républicain.
D'accord. Peut-être aussi voir, oui, non, ouais, ça, bien sûr, un peu de temps. Côté Espagne républicaine, si je puis dire, bon, dans un premier temps, d'accord, l'État un peu disparaît, quoi. Enfin, bon, je crois que c'est Largo Caballero qui vient assez rapidement. Ceci étant, l'ambassade en France a un rôle, alors je sais pas, je m'en rappelle plus exactement dans le livre, peut-être pas depuis le début, mais il y a quand même des choses qui vont se passer au sein de cette ambassade, y compris, je crois qu'il y a certains anarchistes après qui vont plus ou moins travailler avec eux. Si tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe de ce point de vue-là, parce que c'est sympa. La République espagnole n'a pas complètement disparu comme ça, brutalement. Il y a quand même des choses qui se font. Hein.
La République espagnole n'a pas totalement disparu, d'une part, et d'autre part, elle se reconstruit en centralisant cet effort de guerre avec un calendrier qui change selon les secteurs. On critique, avant de passer sur la question des ambassades, on critique souvent la question de cette armée républicaine qui ne serait pas efficace. On peut discuter du modèle qui a été pris, mais reconstruire une armée de quasiment zéro en si peu de temps, en quelques semaines à peine, et à quelques mois, avoir une armée effective et plutôt efficace.
Oui, ce qu'on peut dire, en fait, par rapport à l'armée qui disparaît, c'est surtout tous les officiers, etc.
Tout à fait.
Soit de l'autre côté, soit qui sont neutres, peut-être quelques-uns qui restent.
Il y a un vrai problème d'encadrement.
Et donc, c'est ça qu'il faut réorganiser, quoi.
Tout à fait. Il y a un vrai problème d'encadrement. Et puis après, il y a un nouveau modèle d'armée, en fait, qui est discuté. Ça se fait quand même sur des temps assez rapides. Et la République fait face à une désertion de ses fonctionnaires. Donc, c'est le cas dans l'armée. Certaines personnes aussi sont épurées. Donc, dans un deuxième temps, après, on épure. Ça dure tout le conflit, en fait. Certaines personnes sont mises en retrait, parfois même sont condamnées. Et dans le corps diplomatique, c'est la quasi-totalité du corps diplomatique, une très, très grande majorité du corps diplomatique, soit passe du côté franquiste, ou alors est mis en retraite. Donc, ils doivent reconstruire aussi un appareil un appareil diplomatique, et pour ça, il s'appuie sur des socialistes. Mmh. Ce sont des socialistes proches du gouvernement central, qui, souvent d'anciens intellectuels, ou certains qui avaient exercé dans la carrière diplomatique, qui rejettent les bases de cet appareil diplomatique international. Avec Del Bayo, comment Luis Jiménez de Asua et d'autres, ils sont plusieurs à partir en France dès le début du conflit. C'est France, à Paris et à Londres, sont les deux points névralgiques de l'action républicaine à l'extérieur du pays. Et dès le mois d'août, il y a une première commission d'achat qui est mise en place. Et le problème de cette commission, c'est qu'elle est plutôt paralysée. On dit qu'elle n'est pas efficace parce qu'il y a différentes délégations qui viennent parfois même du gouvernement central, des fois des organisations politiques, des organisations régionales. Et il y a surtout un contrat qui a été passé avec une société, la Société européenne d'études et d'entreprises, qui empêche de mener des achats. Donc si bien qu'on reconstruit une nouvelle commission d'achat avec Louis Salakistein. Et en octobre 1936, et lui, sa logique, parce qu'il veut aussi se présenter comme l'homme fort de l'antifascisme, il dit « Mais moi, j'associe toutes les causes politiques. » Et dedans, il crée un bureau avec toutes les forces politiques et régionales, à l'exception des communistes qui ne sont pas espagnols, qui ne sont pas représentés, même s'ils collaborent avec cette commission et qu'ils agissent. Ils ont un rôle d'ailleurs assez important, mais ils n'ont pas de délégation représentée. Et Alekhine veut se représenter à vraiment le fer de lance de l'antifascisme et veut montrer que cette ambassade, son fonctionnement est digne de tous les éloges et du meilleur fonctionnement. Donc ça va être paralysé au bout de quelques mois et on va refaire une troisième commission. Je ne vais pas refaire toutes ces commissions, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, il y a une pleine logique de collaboration. Déjà, on se retrouve en octobre avec les différentes forces et on sait qu'un délégué important qui joue un rôle auprès de la commission pour l'Espagne libre, le comité pour l'Espagne libre, pardon, de Louis Lecoin, qui est Facundo Roca, et un délégué, on ne sait pas exactement quel rôle il a pu avoir, Mascarellaï aussi a eu un rôle important, ont une affiliation en tout cas avec cette commission d'achat républicaine. Le fonctionnement et les archives disponibles laissent entendre qu'ils gèrent les achats de manière autonome de leur côté, que c'est surtout une protection diplomatique, une immunité.
Oui, c'est une espèce de protection
tout à fait.
Qui peut éventuellement faciliter le transport, j'imagine.
Hein. Exactement, et surtout la protection des actions, parce que une personne comme Facundo Roca, qui est un militant qui était présent en France avant, qui avait été expulsé, est sous le coup donc toujours de cet arrêté d'expulsion qu'il avait touché avant le début de la guerre d'Espagne. Donc il faut protéger leur action et après ils le font de manière autonome, parfois en certaines opérations en collaboration avec l'État central, mais surtout avec les forces politiques disponibles sur place.
D'accord, bah écoute, je propose une autre pause musicale et puis peut-être on va enfin parler des contrebandiers puisque il y a quand même dans le livre beaucoup d'aspects par rapport à ça. C'est à toi, Monique. Je vais voir quelqu'un.
Negras tormentas agitan los aires. Nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrumbar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la. La 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 la
Las Barricadas, c'était Serge Gerroyo. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Et alors, je sens qu'il se passe des choses en studio, mais je vais tout de même leur donner la parole.
Oui, donc, nous sommes toujours à Pierre Salmon, un antifasciste de combat armé l'Espagne révolutionnaire, autour de ce livre, et puis aussi de tout le travail qu'il a pu faire, qui est paru aux éditions du Détour. Voilà, donc on avait un peu pris le temps, et je crois que ça valait le coup de situer la pratiquement dans les, on peut dire dans les presque les premiers jours, hein. Et donc il y avait absolument la nécessité pour un certain nombre de forces politiques qui étaient pas liées à l'international communiste, quoi, même je crois même là, un petit peu pratiqué aussi, mais en tout cas nécessité de faire passer des armes malgré la non intervention. Bon, on va dire de faire de la contrebande. Donc, tu as parlé un petit peu de ceux qui s'y sont intéressés, quelques comités en question, là. Et tu as parlé de l'achat. Alors, peut-être tu peux nous parler un petit peu de où est-ce qu'on peut l'acheter, parce qu'il est peut-être en France, à qui, ou il n'est peut-être pas qu'en France. Et puis aussi, comment on peut l'amener, comment on peut l'amener en Espagne, parce que c'est quand même ça l'objectif, sachant que les militants qui s'occupent de ça sont pas forcément des professionnels, à la fois des armes et du transport d'armes. Donc c'est un peu le cœur du livre quand même, parce que tu as travaillé beaucoup là-dessus. Donc peut-être c'est le moment justement d'aborder ce sujet là.
Oui, bien sûr. Le souci qui se pose avec ce conflit, c'est du côté des forces de gauche en général, une méconnaissance des moyens d'approvisionnement, d'achat, de transport, généralement des armes. Et ça vaut à peu près pour toutes les tendances politiques, hein. On est sur des sociétés, on va dire, désarmées, en tout cas sur des logiques aussi pacifistes, antimilitaristes, qui font que ces questions sont assez lointaines, même s'il peut exister des cas concrets de militants, hein, qui connaissent ces pratiques et qui même les pratiquent au quotidien ou presque. Bon, la premier point à faire, c'est déjà de trouver des armes. Mmh. Et la France n'est pas forcément un lieu pour en acheter beaucoup, puisque la France, un peu comme maintenant d'ailleurs, est un grand exportateur d'armes, mais fait très peu d'armes légères. En tout cas, les armes légères sont chères et pas forcément d'excellente qualité. Donc, il faut aller plutôt en Belgique, notamment à Liège, avec la firme Herstal, où on produit beaucoup d'armes. Déjà, la Belgique était un des premiers exportateurs d'armes en faisant quasiment que de l'arme légère, donc une grande prolifération des armes. Et la Suisse, parce que la Suisse se trouve à côté de l'Allemagne et d'Italie, et aussi dans l'immédiat, on peut trouver le soutien de certains réservistes. Tous les hommes qui ont fait leur service militaire restent réservistes, ont une arme chez eux. Donc il faut rentrer en contact une fois qu'on est arrivé en France, qu'on achète quand même une partie du matériel en France, mais c'est un peu compliqué. En plus, on fait face d'une part au contrôle, d'autre part à des armuriers qui sont pas forcément à classer parmi les personnalités humanistes, donc qui sont pas prêtes toujours à fournir du matériel de guerre, quand bien même ça peut être une opportunité économique. Donc il faut aller acheter ce matériel et le plus souvent aller chercher dans d'autres pays, comme ceux que j'ai cités. Et pour ça, il faut passer donc plusieurs frontières. Donc on se retrouve, premier cas d'arrestation possible, avec la frontière franco-belge, franco-suisse, qui sont déjà assez surveillées, parce qu'il y a des pratiques de contrebande ancienne, parce qu'on est sur un moment de contrôle des frontières très important en France, avec un véritable repli xénophobe. La peur de l'étranger conduit au renforcement des frontières, je crois que l'actualité ne le dément pas, avec un contrôle de tous les flux possibles, humains, matériels, tout ce qui pourrait déstabiliser, on dit à l'époque, la sécurité intérieure, nationale. On parle de pratiques qui sont dangereuses d'un point de vue, je cite, national. Et l'autre frontière à franchir, c'est évidemment les Pyrénées, avec un contrôle encore plus important, au moins jusqu'en juillet 1937, avant un relâchement plus effectif de cette non-intervention, avec un contrôle par des gendarmes, par des policiers, parfois même arrivés en soutien de certains tirailleurs, hein, qui sont mobilisés dans l'arrière-pays aussi pour contrôler. Donc à certains moments dans les premiers mois du conflit, les services policiers qui demandaient depuis déjà des mois, sinon des années, des effectifs, se sont contents d'avoir enfin ces effectifs et en plus grossissent la menace en disant on a vraiment besoin de monde, vous rendez compte, on pourra jamais tenir cette frontière, il y a tous les dangers, donc on leur envoie des effectifs et ça fonctionne, et si bien qu'il y a quand même pas mal d'arrestations ici aussi. Donc, la méconnaissance des armes, toutes les difficultés à passer des frontières obligent les militants français à se reposer sur des criminels de métier. Et ça, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, parce que il est nécessaire, et c'est pas le cas que des anarchistes, c'est le cas des communistes et d'autres, de s'appuyer sur des personnes qui sont capables de fournir des armes. Donc il s'agit pour certains de mafieux, on dirait, assez connus, comme Carbone et Spirito, qui participent en fait à fournir des armes à peu près toutes les personnes qui en ont besoin.
Je crois qu'il y en a même qui fournissent des deux côtés.
Ah oui, oui, Carbone et Spirito, a priori, sont engagés pour des fournitures d'armes depuis la Belgique aux franquistes, et depuis Marseille aux communistes, et depuis Paris aux anarchistes. Donc, personne n'est dupe, c'est une question d'argent. Pour eux.
Hein, oui, c'est... d'ailleurs, question d'argent, finalement, on peut dire que c'est un marché, même si c'est pendant la guerre, et si j'ai bien compris ton livre, enfin, je n'ai pas surpris, il y en a qui ont vendu des armes vraiment chères pour ce que c'était. Hein,
tout à fait.
Certainement ça. Eu des abus très forts.
Un véritable effet de la non-intervention, c'est une inflation sur le prix des armes. Et en Belgique, par exemple, les marchands d'armes se réjouissent, les fabricants d'armes se réjouissent que, d'une augmentation, des fois, de prix qui sont doublés pour certaines mitraillettes. Dans le cas des États, pour citer par exemple la Pologne ou la Grèce, qui sont des dictatures anticommunistes, même chose, on se réjouit de ces conditions où il y a peu d'armes disponibles, donc on vend des vieux stocks, parfois des stocks qui ont été prélevés sur les armées russes dans la guerre civile, pour le cas au sortir de la Première Guerre mondiale, pour le cas des Polonais. Même chose pour la Grèce, qui vend des vieux stocks, voire des armes neuves, mais ça permet ça de renflouer les caisses, et dans le cas de la Grèce, c'est quand même un tiers de son PIB en 1938. Et on le dit très clairement, pour citer un colonel, il me semble, polonais, qui échange avec les républicains espagnols, il leur dit, mais écoutez, moi j'aime pas traiter avec des porcs rouges comme vous, mais on a besoin d'argent. Donc on vous vend des armes. Donc là encore, on ne cache pas du tout les motivations anticommunistes, mais la situation finalement arrange tout le monde. D'abord la République qui a beaucoup d'argent, on aurait peut-être pu le dire en introduction, mais l'Espagne, c'est la cinquième réserve d'or mondiale à cette époque. D'un autre côté, des pays qui connaissent le danger de la guerre imminente et qui veulent renouveler leur stock d'armement en vendant leurs anciennes armes. C'est le cas de la Pologne, de la Grèce et d'autres pays. Donc oui, c'est une opportunité économique.
Oui, et puis moi, je ne sais pas si tu... Oui, je crois que tu en parles un peu dans le livre, mais je sais, en avoir parlé à des compagnons à l'époque, y compris... l'URSS a fait payer assez cher.
Oui,
armes.
Oui,
bon,
oui, oui.
Ils donnent comme ça tranquillement. Hein.
Effectivement, alors ces travaux de Gerald Hausen, ça a été plutôt confirmé hein, par d'autres études où les armes soviétiques sont vendues un petit peu plus cher. Il y a un trafic entre le taux de rouble et au prix au dollar, si bien que d'une part les armes soviétiques ne sont pas données et d'autre part elles sont vendues assez chèrement. Et si on a eu aussi des avions, des tanks vraiment de pointe, il y a eu aussi du matériel parfois comme de l'artillerie ou des fusils qui étaient aussi de très mauvaise qualité du côté des armes fournies par sortie des stocks russes. Donc on a ce cas-là aussi du côté des Russes. Donc en tous les cas, cette situation d'embargo crée des conditions en fait qui sont seulement défavorables au camp antifasciste, qu'ils soient républicains ou autres, qui a besoin d'armes, n'importe quelle arme. Et s'il faut que ce soit des armes de mauvaise qualité,
en
c'est
plus,
mieux que
quand
rien.
Quand tu dis n'importe quelle arme, ça enfin à part les criminels, on peut supposer que quand même ils s'y connaissaient et en conditions en plus qu'ils jouent réellement le jeu, enfin économique en tout cas. Et puis, mais les militants qui étaient là, qui achètent. Je sais pas, moi je me rappelle, il y a des compagnons qui nous disaient, mais en fait on reçoit là un fusil, puis les cartouches on n'avance pas avec. Enfin bon, je veux dire, les militants n'étaient pas formés forcément pour pas trop se faire avoir en fait.
Tout à fait, oui. Il y a des problèmes parfois de fusils qui arrivent sans leur culasse. Donc on a ce souci-là et ça on le voit encore une fois dans des archives où. il y a parfois des personnes qui viennent mais qui repartent avec des armes de très mauvaise qualité parce qu'ils ont seulement trouvé un brocanteur qui leur avait vendu donc des antiquités, des armes qui n'étaient pas forcément en usage, qu'on espère un peu rafistoler en Espagne parce que c'est la seule chose qu'on trouve. Et puis là encore, personne n'est dupe, hein, ils savent qu'ils ont pas de connaissances techniques suffisantes, ou en tout cas assez peu, surtout au début du conflit, et qu'on n'a pas toujours les bons calibres, les bonnes armes pour lutter, mais sachant qu'il faut pas revenir les mains vides, on revient avec ce qu'on peut trouver, et c'est parfois peu, sinon une mauvaise qualité.
Donc ces armes, on arrive à les acheter, bon, plus ou moins, on s'est fait avoir plus ou moins, et il faut les transporter. Alors comment ça se passe? C'est transporté et jusqu'en Espagne. Et, pareil, là, peut-être je pense que les militants, enfin tu le dis d'ailleurs, c'est pas forcément n'importe qui, c'est déjà des gens qui plus souvent parlaient aussi l'espagnol, qui connaissaient pour certains la frontière, etc. Mais enfin, quand même, il faut s'organiser, donc il faut des camions, il faut tout ça, quoi.
Tout à fait. Alors, une des premières techniques utilisées, c'est celle qui semble en tout cas la plus importante en termes de volume, c'est le camouflage. Oui, on utilise les camions d'assistance humanitaire et on planque sous le lait concentré, les vivres, les médicaments, des munitions, des fusils, pour faire passer une bonne partie du matériel. Dans d'autres cas, il s'agit aussi d'un jeu avec entre le chat et la souris avec les policiers, pour passer la frontière de manière illégale, de manière cachée, la nuit, souvent. Et déjà à cette époque, on peut identifier des techniques qu'on appelle aujourd'hui de go-fast, hein, c'est-à-dire qu'un premier véhicule qui arrive, il regarde, il éclaire le chemin, un deuxième véhicule peut arriver plus rapidement après pour passer la frontière, voire la forcer le passage si besoin.
Et est-ce qu'il y a eu des complicités, par exemple, en tout cas au sein de la douane?
Oui, oui. Ça.
J'imagine quand même que, les douaniers, c'est plus ou moins... Alors, j'ai pas forcément des gens plus ouverts, mais par rapport à la Révolution espagnole, mais enfin, qui vivaient là, bon, peut-être les militants les connaissaient un peu, enfin, ça a dû jouer aussi, ça.
Le cas de la douane est très intéressant parce qu'il permet de poser la question de l'attitude des autorités françaises face à cette pratique. Et comme souvent, c'est ni noir ni blanc, c'est souvent gris, c'est-à-dire entre l'assistance et le refus d'assistance. Donc on a parfois adressé justement la douane à raison comme une administration où on pouvait plus facilement trouver des complicités. Alors, je répondrai d'abord que c'est le cas, notamment Gaston Cussin, qui est chargé de la non-intervention relâchée, un ancien douanier cégétiste, s'appuie sur des compagnies de douane qui lui sont acquises pour faire passer ses armes, pour organiser même à partir d'un certain moment les passages d'armes. Et on sait aussi que certains militants comme Jackie ou d'autres en ont parlé, qu'il y a des douaniers qui sont réputés acquis à la cause, qui ferment les yeux, qui s'en vont de leur local au moment du passage des armes, qui téléphonent pour dire qu'ils sont sur telle route ou pas. Donc des complicités existent et elles sont documentées. Mais la douane est aussi fracturée par rapport à ce conflit. Et certains, d'une part, veulent faire respecter la loi, pourquoi ils ont été formés. D'autres aussi ont des motivations qui sont anti-communistes, voire fascistes. Et on a des cas pour les arrivées de... pas forcément le cas de la contrebande transfrontalière des libertaires, mais quand il y a des navires qui arrivent avec des opérations de plus grande ampleur qui sont un peu couvertes par l'État, on a des douaniers qui refusent le déchargement, c'est le cas au Havre, où il y a un épisode à la frontière pyrénéenne où plusieurs douaniers espagnols arrivent et saluent le point levé leurs homologues français qui, pour certains, répondent d'un salut fasciste. On est en 1938 face aux Espagnols, donc ça crée un début d'incident diplomatique entre les deux pays, on comprend pas, donc les douaniers français sont débarqués, on en met d'autres plus acquis à la cause, mais ces cas-là existent aussi, donc... Finalement, il y a des divisions dans toutes les administrations. Peut-être que dans la douane, on trouvera plus de soutien et de complicité qu'ailleurs, mais ils ne doivent pas masquer aussi les refus d'aider, sinon des acquis idéologiques qui ne sont pas du tout à classer du côté de la Révolution espagnole.
Et peut-être, c'est le moment que je laisse un peu le choix, mais quand même, ça passe à travers des individus, et comme tu dis d'ailleurs... autant, je pense que dans les militants, il y a eu pas mal de volontaires dans les brigades internationales ou directement, je sais pas, dans les colonnes de Ruti, etc. Et ça, je comprends très bien. Mais par rapport à ce que tu décris là, bon, c'est pas n'importe qui peut le faire, qui a envie de le faire déjà. Et donc, c'est un certain nombre de personnes, hommes ou femmes, qui est pas énorme, je crois. Enfin, après ce que tu dis dans ton livre. Et donc, c'est peut-être le moment que tu nous parles de quelques-uns que tu as envie d'évoquer, enfin qui sont évoqués dans le livre d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Je te laisse le choix.
Oui, bah, alors sur ces cas militants, c'est vrai que j'ai voulu redresser certains profils pour montrer toute la complexité de ces parcours. J'ai essayé de prendre de différentes couleurs politiques aussi, par exemple avec Jean Jérôme, militant communiste, qui est un cas qui me semblait assez pertinent, en tout cas assez représentatif de ce qu'on pouvait trouver aussi sur des militants étrangers, juifs, communistes, révolutionnaires, et donc quand la guerre civile, c'est ce qu'on appelle un militant révolutionnaire professionnel, itinérant, quand la guerre d'Espagne éclate, ben, voilà, on lui confie aussi des missions importantes pour approvisionner illégalement le camp républicain en armes. Puis on a d'autres cas aussi qu'on peut retrouver du côté des libertaires, je pense à Odéon, Chazanov ou Louis Lecoing, qu'on a tout un parcours qui est plutôt un parcours vraiment d'objecteur de conscience, de rejet de la guerre et de la chose militaire en général, et qui vont se retrouver, la guerre d'Espagne aidant, face à un engagement qui va leur faire participer pour Odéon à des envois de volontaires avec la fondation de la Centurie Fort en Espagne, à des envois d'armes pour Chazanov ou Louis Lecoing. Voilà, les choses sont un peu plus complexes à hauteur d'hommes. Et puis, on pourra en parler aussi, mais il y a pas mal de femmes qui ont été invisibilisées aussi dans cette pratique. Pourquoi ? Parce que quand on parle de contrebande, on a tendance à associer ça naturellement à l'illégalité et à l'illégalité criminelle ou politique. Et donc, chemin faisant, à des valeurs masculines. Parce que les représentations sont celles-ci. Le criminel, c'est l'homme avec des cicatrices, tatoué, le militant politique illégal, on pense souvent au Maquisard, à Jean Jérôme et d'autres. Et quand il y a des militantes qui se sont jetées dans cette pratique, on a tendance à voir leur action à la baisse. Et même chose pour des criminels, qu'on a plutôt... voilà, beaucoup d'enquêtes n'aboutissent pas, ou alors on a tendance à dire, mais voilà, elle accompagne son amant. Il y a le cas, j'en parle dans l'ouvrage, de Jeanne van Simmertier, donc, qui accompagne son mari, qui est un proxénète. Et elle a dit au policier, mon mari m'a amené là pour me divertir. Et l'enquête va pas très loin en son cas, et pourtant elle est quand même arrêtée avec plusieurs dizaines d'armes dans le coffre, et on voit là que pour le policier puis le juge, il y a peut-être eu des considérations tout à fait genrées sur qui peut être capable d'entrer en illégalité ou non, et peut-être que Jeanne van Simmertier aussi utilisait cette phrase, en tout cas cette stratégie, que pour se protéger d'une répression, et en son cas ça a bien marché. Et d'une certaine manière, les seules femmes visibles sont plutôt des femmes déjà considérées comme transgressives, des procédures prostituées, des militantes révolutionnaires sont quand même plus visibles, je pense à Émilienne Morin, mais quand même, Émilienne Morin, on voit son rôle à la baisse, on dit que c'est l'amante de Durruti, et puis on dit qu'elle a pris part dans des opérations d'armes, mais on ne sait pas trop lesquelles, donc on voit bien qu'en son cas, les enquêtes n'ont pas trop continué, que ce n'était pas le cas le plus intéressant, et c'est bien dommage, donc après coup, on peut essayer de lire ses archives à contre-fil, de lire entre les lignes, mais malheureusement, en bien des cas, les archives manquent pour aller un petit peu plus loin.
C'est relativement con, moi j'ai vu, enfin dans des cas justement comme ça, où c'est les guerriers, mais les gens qui rentrent, bon, je ne dis pas que tout le monde, mais on imagine peu que les femmes peuvent aussi participer dans ce genre de choses. En plus, bon, dans la résistance, il y a énormément de femmes. Si on regarde aujourd'hui le Rojava, il y a énormément qui sont investis, etc. Quoi.
Bah, pour sortir un peu de mon cas d'étude, citer Rita Talman qui avait parlé de la résistance française, la population résistante, c'est à peu près 10, 15, 20%, plutôt 15, 20% de la population résistante. Donc déjà, il faut se poser la question de définir c'est quoi être résistant? Est-ce que c'est prendre les armes, passer un papier? Bon. Et dans l'historiographie française, dans les années 60-70, c'était à peu près 2% des citations dans l'historiographie. Donc déjà, même, il y avait des biais sur qui écrit, qui écoutait, et même les chercheurs avaient tendance à reproduire ce biais sans forcément s'interroger. Donc on a une logique de rattrapage maintenant, mais pendant longtemps, il y avait une invisibilisation quand même de celle qui s'y prêtait. Donc il faut y être attentif quand on écrit ce genre d'histoire.
Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, enfin, ce que j'imagine, moi, si tu veux, c'est que par rapport à ce que tu décris là, enfin bon, là on parle de militants, mais moi je vois pas comment, avec ce système-là, tu peux arriver à passer autre chose que des armes légères, parce que je vois pas passer des chars à l'intérieur des camions.
Oui.
Alors, ça me paraît évident, mais...
Complètement, alors... L'embargo international, avec la non-intervention, de fait, il sépare la pratique, et ça vaut pour les différentes pratiques illégales, entre différents types de marchés. Le marché noir, la contrebande, totalement illégale, c'est ce dont je parle dans l'ouvrage, essentiellement. Et après, il y a le marché blanc, les achats qu'on peut faire. Par exemple, au début du conflit, on peut fournir des avions civils à l'Espagne républicaine. Pendant tout le conflit, on peut fournir des camions, quand bien même après l'Espagne les transforme. Enfin, il y a des choses qu'on peut envoyer. Et après, entre les deux, il y a le marché gris. Et ce marché gris, il s'appuie sur la législation en vigueur, il en détourne le principe. Et c'est seulement en utilisant ce marché gris qu'on peut faire des opérations de plus grande ampleur. Pour ça, il faut avoir des moyens économiques, des moyens diplomatiques, des moyens du transport de grande envergure. Et c'est ce marché gris qui va être concerné par le relâchement de la non-intervention. Et ça, c'est-à-dire que l'État français garde un petit peu la main, il se laisse la possibilité de refermer sa frontière, de la réouvrir quand il le souhaite, et ça seront des flux qui viennent du RSS, des armes aussi qui viennent de Pologne, ou d'autres font partie de ce marché gris où on, pour le dire assez rapidement, c'est le détournement de cette législation, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un acquis à caution, c'est-à-dire que la législation en vigueur à cette époque veut que, pour le marché international des armes, un consul atteste de la bonne réception de la marchandise. Que fait le Mexique, soutien de l'Espagne républicaine? Il dit, bah oui, nous avons bien reçu des armes. Parfois même, on envoie un navire du même nom à Veracruz au Mexique. D'autres fois, même pas. Donc, il y a un système où les marchands d'armes, les intermédiaires, vont être aussi des consuls de différents pays. Donc, ils disent, ils font l'opération, ils attestent eux-mêmes de la réception des marchandises. Donc, il y a un biais là qui est tout à fait exploité. D'accord. Et qui d'ailleurs continue à être exploité à l'international jusqu'à aujourd'hui, après échange avec quelques douaniers. Et donc, quand on fait ça, on peut jouer sur du plus gros volume, parce que il est plus difficile d'arrêter un navire qui vient dans un port avec des centaines de tonnes d'armes, plutôt qu'un camion totalement... il est avec des armes transportées de manière totalement illégale, où il n'y a pas de récépissé, d'achat, de transport, etc. Donc là, on l'arrête, on saisit les armes. Et c'est... Ça va être un paramètre qui va beaucoup gêner les groupes révolutionnaires qui n'ont pas les moyens diplomatiques et économiques pour développer ce type de marché et qui vont petit à petit, en fait, je l'explique dans l'ouvrage, abandonner ce type d'opération parce que ils peuvent pas jouer sur ce paramètre, ils peuvent pas mettre en place un approvisionnement efficace sur la durée. Au départ, ils le font parce que ce qu'ils veulent, c'est une révolution. Ce qu'ils veulent, d'ailleurs, ce qu'ils vont chercher au début du conflit, parce qu'on a eu tendance à critiquer en disant, bon, bah, écoutez, regardez, les anarchistes, ils achètent quelques pistolets, de la dynamite, ils ne sont pas efficaces, nous on fournit des avions. Mais ce sont des armes de révolutionnaires. Ce qu'ils veulent mettre en place, ça certes n'a pas fonctionné, on pourrait en discuter, mais c'est une révolution, une grève générale, pour mettre fin au coup d'État. Puisque le coup d'État fasciste est considéré comme le bras armé de l'impérialisme capitaliste, et ben on met en place une arme anticapitaliste. Bon, il n'y a pas eu cette contagion révolutionnaire, il n'y a pas eu cette grève générale, mais dans les premiers jours du conflit, à Barcelone ou ailleurs, cette grève générale et cette résistance à la dynamite et au pistolet a fonctionné. Et après, les militants révolutionnaires sont bien conscients que ces armes ne suffiront pas et laisseront la République aussi les acheter.
D'accord. Je propose une pause musicale. J'aperçois Manique.
L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré mystère franco. Nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure de Grimaud. que t'importent les procédures qui font des ombres sur le mur. Quand le bourreau bat la mesure, Franco la muerte. Tu t'es marié à la camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes qu'on mouchale pendant que l'Europe bavarde. Qu'importe si l'Espagne est morte, entends la mort devant ta porte. C'est Grimaud qui te la rapporte. Franco la muerte. Tu couches avec une Pénélope qui tisse un soir en bas de l'Europe sur cette Espagne que tu stoppes en attendant qu'elle te chope. L'important pour toi c'est que ça dure. Toi tu fais pas de littérature. T'es pas Lorca, t'es Sarature. Franco la muerte. Vienne le temps des poésies qui te videront de ton lit quand nos couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Cette nuit de la désirade, faire l'aube claire des grenades et l'Espagne des camarades. Espagne la vida.
Franco la muerte, c'était Christiane Courvoisier dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc oui, je pense qu'on va faire une séquence, hein, il y a encore beaucoup de choses à dire bien sûr, donc avec Pierre Salmon pour son travail et son livre « Un antifascisme de combat armé, l'Espagne révolutionnaire » paru aux éditions du Détour. Donc là, on en a un petit peu parlé pendant la pause, donc je vais proposer qu'il parle de la période de renforcement de l'État déjà, et surtout, à l'intérieur de l'État, du renforcement, un peu sur tous les plans d'ailleurs, des forces communistes qui, partant d'un parti communiste très faible, comme on l'a dit au début, a été armé par l'aide évidemment de l'URSS, y compris en créant un certain nombre de forces militaires qui étaient armées directement, alors que les forces qui n'étaient pas liées au parti communiste avaient beaucoup de mal souvent à avoir des armes, en tout cas des armes de qualité. Bon, ce qui n'est pas dit dans le livre, c'est pas le sujet, mais qui a aussi mis en place une espèce de police, notamment à Barcelone, qui contrôlait les militants, etc. Enfin, bon, qui a mis en place des choses liées à un État tel que le conçoit les bolcheviks, c'est-à-dire police, armée, etc. Même si c'était officiellement pour lutter contre le fascisme, dans les faits, ça luttait aussi contre la révolution. Et donc, un des points forts qui est lié, c'est tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est ce qui s'est passé justement les journées de mai à Barcelone, mais qui vient peut-être dans une logique de centralisation de tout ce que je dis, et qui va s'accentuer encore par la suite sur tous ces plans-là, quoi, sur le plan de la, y compris de la répression des collectivités par général Lister, j'allais dire le fameux général Lister, parce que c'est vrai que dans les monarchistes, ça n'a pas Lister. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc tu nous parles un peu de ces journées-là.
Oui,
leur enchaînement logique, en fait.
Alors, effectivement, on le disait en introduction de l'émission, il y a les fournitures d'armes de l'URSS, elles vont pas sans immixtion politique. Et ça, c'est important, effectivement, avec une police politique, une répression. Et ces logiques-là, qui sont en œuvre déjà depuis longtemps, depuis plusieurs mois, vraiment éclatent au mois de mai 1937, même si il y a certains points qui sont joués avant, même si certains libertaires avaient quitter cette logique de centralisation, de rejet de la centralisation, pardon. Et un des enjeux forts, d'abord, c'est la question de la militarisation. Donc c'est la création d'une armée populaire et de rejoindre cette armée populaire avec, dans la balance, la question des armes. Là encore, en disant, bon, bah, si vous voulez des armes modernes, vous rejoignez cette armée populaire. Aux ordres d'un gouvernement central, avec un commandement unique. Toute la question est de savoir quel commandement unique. Hein. Les anarchistes ne rejettent pas l'idée d'un commandement unique, mais ils veulent savoir lequel, et à la main de quel parti et de quelle organisation. Et finalement, bon, il y avait déjà eu quelques groupes anarchistes, hein, qui avaient choisi de rejoindre ces milices populaires, enfin les milices populaires, et de les intégrer un petit peu à cette armée. Mais quand même, les tensions vont être croissantes, si bien qu'en mai 1937, on a les fameuses journées de mai, cette semaine sanglante, hein, dans laquelle il y a une opposition très forte entre le gouvernement central et les communistes, et de l'autre côté, le POUM et les anarchistes, et qui aboutissent à une véritable marginalisation des anarchistes. Pas pendant tout le conflit, j'y reviendrai, mais par contre à une liquidation du POUM qui est très violemment réprimée. Pour l'expliquer, effectivement, ça... désolé si oui, il faut le préciser. Le POUM, c'est un parti marxiste ouvrier anti-stalinien. Qui a été décrit comme trotskiste. C'est pas le cas, c'est une erreur.
Il y avait peut-être des trotskistes, mais je sais que les rapports entre le POUM et Trotsky, c'était bien plus compliqué. Simplifié en disant qu'il est trotskiste.
Exactement. C'est pas un parti trotskiste. Il peut y avoir des trotskistes dedans, mais c'est un peu plus évident, notamment dans les militants étrangers qui rejoignent le POUM, parce qu'ils ont des milices avec des étrangers, on connaît Orwell.
Bah, il y a Orwell, oui, bien sûr.
Mais le POUM va vraiment souffrir et Nin, chef du POUM, va être exécuté par les services soviétiques. Et ça, quand bien même Negrin, qui lui, au niveau du gouvernement, va sortir chef du gouvernement après mai 37 et va pousser pour cette logique, cette tendance de fond, cette lame de fond qui est celle de la centralisation des efforts de guerre. Lui va voir d'un très mauvais œil cette immixtion politique qui aboutit à des assassinats. Et ça gêne parce que d'un côté Nin veut des armes soviétiques, Nin est d'accord avec le PCF et le PCF joue le jeu à fond de cette centralisation des efforts de guerre et de cette marginalisation des révolutionnaires, c'est-à-dire que le Parti communiste espagnol dit arrêter cette collectivisation, il faut qu'on s'appuie sur les commerçants et les petits artisans, donc faut rendre les terres, rendre les boutiques, faut mettre les bourgeois dans notre poche et arrêter avec cette révolution qui nous cause plus de problèmes.
Il faut défendre la religion.
Défendre la religion. Et donc, voilà, Nin veut aller en ce sens, mais le gouvernement central accepte très mal l'idée qu'il y ait des immixtions politiques qui aboutissent à des assassinats. Donc d'un côté, publiquement, il ménage l'URSS et les communistes, et de l'autre, il y a des vraies crispations, et on le voit
Ça m'intéresse parce que je me demandais un peu, je me posais la question à travers la personnalité de Negrin. Tu penses que lui, il n'était pas d'accord avec tout.
C'est ça, finalement, lui, il fait le pari depuis le début du conflit qu'il faut s'appuyer sur l'URSS. Ça, c'est son pari, Negrin. C'est son pari parce que Dieros ou Bignas l'expliquent bien. Ils disent, on peut mettre l'or en sécurité, on peut acheter directement les armes là-bas. D'ailleurs, c'est plutôt les Républicains qui mettent l'or en Russie, une partie de l'or, pas tout l'or.
Oui, je crois que tu l'as peut-être dit, mais je ne suis pas sûr. Negrin était au Parti Socialiste, il n'était pas au Parti
Socialiste. Tout à fait, c'est un socialiste, c'est l'aile droite du Parti Socialiste. Ouais. Et il a été présenté comme le traître qui vend l'Espagne aux communistes. C'est plus compliqué que ça. D'abord parce que Staline n'a pas envie de faire de l'Espagne une dictature satellite. Ça s'appelle une lecture de la guerre froide. Et d'autre part, parce qu'au niveau du gouvernement, au bout d'un moment, on a un problème avec ces immixtions politiques. On a des divisions entre la branche plutôt de Prieto et d'autres. Et en disant, mais on ne peut pas, là, ça va nous poser des problèmes, on n'a pas la main. Donc ça crée un peu un froid et on le voit dans les négociations et dans les échanges diplomatiques où, au bout d'un moment, on poursuit, on commence à libérer certains militants dès l'été 1937. On dit, mais pourquoi vous mettez certains militants dehors? Ce sont des dangereux révolutionnaires trotskistes. Et Et d'un autre côté, à partir de certains nombres de mois, on va faire rentrer aussi des anarchistes en 1938 dans le gouvernement pour jouer là contre les communistes qui commencent à devenir encombrants. Donc, plutôt qu'une une victoire totale, une traîtrise de Négrine en donnant l'Espagne à Staline, il faut plutôt voir le gouvernement central et l'aile droite du Parti Socialiste, qui en fait va être à la manœuvre pendant tout le conflit, comme une force politique qui va s'appuyer, selon la conjoncture, sur différentes forces politiques. Le plus souvent, la majorité du temps, sur les communistes, parce qu'ils vont dans le sens qui est celui qu'ils souhaitent de la centralisation des efforts de guerre. Mais quand il s'agit de marginaliser les communistes, ils s'appuieront aussi sur certaines parties des anarchistes, qui, à ce moment, quand même, il y a toujours des prisonniers anarchistes en prison. François Godichaud l'a bien montré, il y a toujours ces voix anarchistes, des milliers de militants qui sont en prison, qui ont été emprisonnés depuis mai 1937, et là, les centrales anarchistes ferment un peu les yeux en disant « Bon, c'est un peu encombrant. Il faut tout ce qu'on aille dans l'effort de guerre. » ils acceptent de reparler. Donc, ça crée, ça aussi, des crispations au sein de la CNT, de la FAI, avec des vraies batailles à l'intérieur de l'organisation anarcho-syndicaliste et des vrais déchirements intérieurs sur cette position, participer ou pas au gouvernement et revenir dans ce gouvernement, malgré tout. Ce qui se passe petit à petit, c'est quand même, du point de vue de Négrine, une stratégie qui s'appuie sur l'URSS et une stratégie qui va se retourner contre lui parce que les émissions sont trop importantes. Et d'ailleurs, l'URSS, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas un partenaire fiable en termes de fourniture de matériel, sur la durée et d'autres.
Oui, tout à fait. Et là, on est dans cette période 37. Est-ce que vers 1295, on peut imaginer que la contrebande probablement en diminution, ou alors je sais pas, dans un contexte comme ça, d'après ce que tu dis, je te crois totalement, mais les militants qui faisaient cette contrebande, ils n'étaient pas très nombreux. Je sais même pas si c'est un site pour un qui existe. Mort à la tâche parce qu'il faisait que ça du jour au matin. Donc cette période-là, est-ce qu'il y a une chute de la contrebande, des armes qui arrivent parce que les militants sont pas idiots, et bien qu'il y a une centralisation qui est en place. Lister, là, comme j'ai dit, qui va avec son corps d'armée, qui va liquider un certain nombre de collectivités. Donc c'est pas un contexte très favorable par rapport à ça. Bien que le besoin doit toujours s'en faire sentir, bien sûr, mais...
Il y a pour la contrebande vraiment un phénomène qui va en décroissant. Il y a plusieurs facteurs. La centralisation des efforts, on considère qu'il faut jouer sur un autre tableau. Du côté des anarchistes, que c'est plus efficace, que le jeu n'en vaut pas la peine, qu'on sera plus efficace en organisant une aide humanitaire, l'accueil des enfants réfugiés, à grand renfort de publicité, ce qui peut convaincre du monde à l'étranger pour la cause anarchiste.
Oui, et puis il y en a, je crois, qui accueillent des orphelins, des choses comme ça.
Tout à fait, des colonies d'enfants qui sont organisées sur le territoire français. Donc, et c'est vrai qu'au niveau, on pourrait dire, capital sympathie, c'est très important parce que une contrebande, clandestine, de laquelle on peut parler un peu dans la presse militante, mais pas trop. Ça attire peut-être moins de sympathisants. Et autre chose, c'est aussi le fait qu'on ait très peu de militants engagés. Le problème est, on l'a dit, un manque de connaissances techniques. Mais aussi, il y a d'autres frontières sociales qui sont en jeu. Les connaissances linguistiques, techniques, en font partie. Et si bien que ces militants, j'avais parlé d'Odéon, Chazanov, il y en a d'autres, ils s'engagent sur tous les fronts de l'antifascisme de combat. Certains, on les retrouve comme l'Espagnol Facundo Roca, dont j'ai parlé précédemment, pour l'approvisionnement en armes, mais aussi pour l'espionnage, mais aussi pour l'accueil des enfants, si bien que ces personnes se fatiguent et choisissent de se consacrer seulement à une activité, d'en abandonner une autre. Enfin, la vie d'un militant est bien remplie, on peut pas tout faire, on doit faire des choix aussi. Et pour ces raisons-là, la contrebande est petit à petit abandonnée, parfois un petit peu déléguée, mais voire même d'une manière générale plutôt abandonnée, même si on retrouve un peu des soubresauts selon le contexte. on retrouve en 38, évidemment, mai 1937, remet la question des armes très en avant, parce qu'est-ce qu'on doit s'armer pour faire face à ce coup d'État? Oui, disent beaucoup de militants. Donc on recherche beaucoup de matériel pour être autonome. Au bout d'un moment, on abandonne un peu cette stratégie. Mais après, il y a peut-être aussi un autre phénomène, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Negrin, mais on accepte aussi un nouveau modèle. Et peut-être, je voudrais venir par là pour nuancer un peu certains points, mais et François Godichaud, là encore, l'avait très bien démontré, il y a un modèle bolchevique, il parle de bolchevisation de l'appareil anarchiste, surtout de la CNT, où on copie ce modèle-là, on centralise, on a un modèle beaucoup plus vertical là où il était horizontal, donc ça va pas du tout sans crispation, et on l'adapte à différentes missions, pour les achats d'armes, pour aussi le fonctionnement interne de la CNT, et ça, c'est un point peut-être important. Et aussi, même chose pour l'armée, hein, où on va, une fois que la militarisation est acceptée bon gré mal gré, on ne choisit pas seulement d'intégrer et de se taire. Un jeune chercheur, Andrew Matthews, l'a montré pour les forces armées. Une fois qu'il rentre dans cette armée populaire, il continue à diffuser de la presse de manière clandestine et à promouvoir au sein de l'armée républicaine un autre modèle militant, un modèle de militant militaire qui se défait de cette dite chose militaire, avec le modèle vertical, les ordres qui ne sont pas discutés, et on promeut un nouveau modèle dit du compagnerismo, où on discute collectivement, où on élit les chefs, et où on utilise l'armée aussi comme un véritable vecteur de diffusion des idées, parce que une bonne partie des hommes, ils sont au front. Donc il ne faut pas les oublier. Et donc ces hommes qui sont au front, il faut leur faire circuler de l'information, il faut les utiliser comme aussi des militants à part entière et pas seulement des soldats. Donc on est sur un modèle du soldat milicien qu'on a parfois un petit peu oublié dans cette question, et eux sont même les premiers à porter les armes.
Et donc, est-ce que dans cette période-là, structuration d'un État central, mis un peu devant cette réalité-là, certainement des questionnements, comme tu l'as dit, dans les milieux anarchistes ou autres. Est-ce que, sur le plan militaire, ça a pu stabiliser le front, ou est-ce qu'au contraire, Franco a continué à avancer, enfin Franco, mais est-ce que ça a été efficace sur le terrain,
cette création de l'armée populaire, cette période de la centralisation des efforts de guerre? Oui, d'une certaine manière, mais d'abord, pour commencer, peut-être à un point, pour dire que... alors ça, c'est le fameux point des Don Quichotte. C'est-à-dire que les anarchistes sont présentés comme des Don Quichotte, expression qui revêt deux sens un peu contradictoires. D'un côté, un côté valeureux, du combat, où on ne regarde pas forcément les conséquences qu'il peut avoir, l'idéalisme avant tout. Et puis, c'est aussi moqué, c'est aussi utilisé comme un Don Quichotte qui se bat contre son moulin, c'est totalement inefficace. Et pour ce qui est des milices organisées dans les premiers jours, on a eu tendance à dresser ces miliciens comme des Don Quichotte, totalement inefficaces, incapables de combattre. Alors oui, il y a une expérience, inexpérience militaire très importante.
Je ne sais pas si c'est toi qui cites dans ton livre, à un moment, un militant, je ne sais plus s'il est français, un communiste français ou espagnol, ils ne sont pas sérieux.
Oui, tout à fait.
C'est ce qu'on dit. Il dit au moins 4-5 fois pas sérieux.
Oui, tout à fait. Mais en fait, cette inexpérience militaire, elle est propre à tout le monde. Socialiste, anarchiste, communiste. Donc déjà, c'est une première chose. Et ensuite, il n'y a pas forcément un rejet de la guerre. Et certains spécialistes, comme David Allegret ou d'autres, ont expliqué qu'il y a une autre manière de faire la guerre qui, parfois, a pu être efficace. Quand on voit Mika Echeberri sur le front à Madrid ou ailleurs, à Sigüenza, au début de la guerre, le fait d'avoir des soldats qui acceptent d'avoir un chef qui discute les ordres font que dans certaines situations très compliquées, il y a des hommes qui tiennent le front. Parce qu'on fait confiance au chef et justement à ses ordres. Dans d'autres cas aussi, il y a pu avoir au début de la guerre certaines méthodes de guerre embusquée qui étaient propres aussi à une certaine manière où on refuse la barricade, on refuse la tranchée en disant ça c'est pas une manière de faire la guerre. Alors effectivement, ça a coûté pas mal de problèmes à des soldats miliciens du début du conflit, mais ça a pu être aussi assez efficace pour attaquer certaines colonnes militaires. Ça, c'est une chose un peu pour déconstruire un peu ces miliciens incapables du début du conflit. Ça n'a pas toujours été efficace. Il y a des cas de débandade qui sont documentés, mais même chose, sans nourriture, attaqués par l'aviation ou autre, c'est des choses qui pouvaient arriver. Par ailleurs, pardon, Par ailleurs, après, avec la reconstruction de cette armée, moi, j'aurais tendance à dire que oui, le journal L'Histoire m'avait posé la question, pourquoi l'armée républicaine a-t-elle perdu ? Et je dis, mais pourquoi on pose toujours la question de la cause de la défaite du côté de la République ? Pourquoi elle a tenu, moi, je me pose la question, pourquoi elle a réussi à tenir aussi longtemps dans des conditions aussi défavorables ? Devoir reconstruire une armée, une absence de soutien à l'international, devoir reconstruire un État, une économie. Il y a beaucoup de choses à reconstruire face à quand même l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, entre autres, et avec la franquiste garde quasiment la moitié de l'armée. Ils doivent reconstruire aussi. Hein. Ils ont une armée de conscrits, ils doivent aussi de rebâtir des choses. Mais quand même, ils ont une armée professionnelle avec l'armée du Maroc. Et déjà, retourner un petit peu la question, c'est de se poser les questions de cette capacité déjà d'approvisionnement. Alors certes, on n'a pas toujours eu des armes de bonne qualité. On a présenté les républicains ou les anarchistes comme inefficaces pour s'acheter des armes, mais quand même, assez d'armes pour résister. Pour ce qui concerne l'armée, ils ont réussi à remporter quelques victoires, hein, qui n'ont pas toujours été de longue durée, mais ils ont au moins réussi à résister. Malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup plus, par manque d'armes, manque d'hommes, par épuisement, aussi certaines mauvaises décisions stratégiques, mais quand même, une guerre de presque 3 ans, face à 2 armées très puissantes, peut-être pas les meilleures, mais en tout cas parmi les meilleures d'Europe et du monde à cette époque, c'était pas peu de choses à cette époque. Donc, pour répondre à la question, je dirais que la reconstruction de l'armée républicaine, dite armée populaire, est plutôt efficace, surtout dans les temps donnés à cette époque. Ça n'a pas empêché certaines mauvaises manœuvres, des manques de coordination, mais on pouvait avoir ces problèmes des deux côtés d'ailleurs. Hein. Faut pas faire de cette armée franquiste et de cet État franquiste un tout unitaire absolument efficace, pardon, parce que l'inefficacité existe, on la voit dans l'espionnage franquiste, où les services militaires civils et militaires se marchent dessus chez ces insurgés. D'ailleurs, chez les civils, il y a plusieurs tendances monarchistes qui se disputent le leadership. Il y a des résistances au sein de l'armée. Il y a, pour ne prendre que l'exemple italien, la bataille de Guadalajara, qui est une... Je dirais peut-être plus qu'une victoire républicaine, même s'il y a des hommes qui ont combattu de façon valeureuse, aussi une défaite stratégique italienne, parce que le déploiement est catastrophique, il y a beaucoup de désertions, et ça aussi c'est une réalité qui existait du côté des insurgés militaires.
Oui, il ne me restera pas de temps. Bon, j'avais aussi une autre question à poser, mais je vais la mettre de côté. Je voulais parler, dans les zones franquistes, quand même, il y a eu beaucoup de morts, quoi. Ils ont tous les militants repérés, voire d'autres. Bon, mais c'est bon, comme il reste 10 minutes, à peine d'ailleurs, parce qu'on gardera un petit peu la fin, une pause musicale de fin. La période la retirade, on peut, même si tu développes pas trop dans ce livre, mais en tout cas pour les auditeurs, c'est quand même une période importante pour les gens qui l'ont vécu, pour ce qui s'est passé en France avec ces militants, et pour peut-être citer un mot pour l'espoir qu'ont maintenu un certain nombre de militants, notamment anarchistes, mais peut-être pas uniquement, on pourrait foutre en l'air quand même ce régime fasciste après la Deuxième Guerre mondiale. Je dis beaucoup de sujets en 8 minutes, mais bon.
Allez, ça va être difficile de tout
dire.
Et en plus, je vais rajouter une couche.
C'est plutôt pour eux, les auditeurs se rappellent.
Quelques pistes, mais... juste un mot quand même sur l'aspect de la répression franquiste, parce que ça me semble important.
Oui, actuellement
une offensive idéologique d'extrême droite, hein, qui tend à blanchir la dictature de Franco et qui continue à publier des bouquins pour blanchir cette dictature et refaire revivre un récit franquiste et néo-franquiste. Juste un mot pour dire que ça a été très bien démontré, il y a un vrai consensus scientifique, que cette répression elle est organisée, prévue en amont. On parlerait même plutôt d'épuration que de répression, et elle est durable. Elle ne s'arrête pas en 1939, après une rééducation des esprits qui jouent avec une incarcération. Il y a 1 million de personnes d'Espagnols qui passent quand même par des prisons ou des camps après la guerre, et l'Église joue un rôle fondamental dans son redressement, on dirait, des esprits. Donc c'est une société de la pénitence, cette Espagne de 1939, avec une vraie logique du vaincu, qui va s'imposer au vaincu sur le temps long en Espagne. Il faudra au moins 15-20 ans pour que les choses commencent un petit peu à s'atténuer, même si il y a plusieurs étapes, hein, je passe rapidement, mais qui permettrait de faire la transition avec tout ça, c'est la question du maquis, puisqu'il y a une résistance en Espagne. Tu as parlé d'un espoir, et c'est vrai que pour certains Espagnols, la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas commencé en 1939, mais plutôt ou 40, elle a commencé en 1936. Ils le disent, hein, il y a une guerre mondiale qui est en jeu. Et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, ça, Diego Gaspar Celaya l'a très bien expliqué. Il y a aussi la BD de Paco Roca. Il y a pas mal d'Espagnols qui sont intégrés, plusieurs dizaines de milliers qui sont intégrés à l'armée française, notamment dans les armées de libération, avec la Nuebe. La fameuse Nuebe à Paris. Hein, il y a quand même quelques monuments ou lieux d'hommage. Et pour beaucoup, c'est l'idée de continuer cette guerre. Et il y a un échec, on le connaît, au Val d'Aran, hein, de libération du territoire, hein, au moment de cette poursuite des opérations pour sortir de cette... Donc, on n'est pas totalement sorti d'ailleurs de cette Seconde Guerre mondiale. Et ça ne va pas mettre fin à toutes les aspirations, parce qu'après, il y a le maquis qui continue. On en vient à ce maquis espagnol de différentes tendances. On sait que les communistes jouent un rôle très important, mais il n'y a pas que des maquis communistes. D'ailleurs, il y a même des maquis qui commencent dès 1936. Par exemple en Galice, donc c'est un phénomène assez complexe, pluriel, mais on sait en tout cas que la France a continué à être une base arrière avec des armes, des passages d'hommes, de femmes, ce phénomène, il est très important jusqu'au début des années 1950. Après, quand même, on sera sur d'autres formes de résistance au franquisme, la résistance autour du mai 68, le mai 68 au pluriel espagnol sera plutôt étudiant, hein, là on est plutôt plus du tout sur des logiques de maquis. Mais on aura cette poursuite en fait du combat, et beaucoup de ces maquisards sont des personnes qui ont cette expérience de la Seconde Guerre mondiale et qui voudront la continuer cette lutte envers et contre tout, contre Franco. Et malheureusement pour eux, hein, les conditions n'étaient pas réunies pour renverser Franco, au niveau diplomatique, au niveau intérieur aussi. Et là encore, on est sur un manque de moyens et de soutien, et plutôt qu'un manque de volonté en tout cas.
D'accord, écoute, comme il nous reste quelques instants, je te propose, comme on fait souvent d'ailleurs à la fin de notre émission, tu peux, pour les auditeurs, recommander un certain nombre de textes pour ton livre. J'en ai parlé, on peut en reparler tout de suite, mais aussi au-delà de ça. Et puis, une petite question de ma part, est-ce que tu continues à travailler sur ce sujet-là? Voilà.
Effectivement, je continue à travailler sur ce sujet. Hein. C'est même, on est quelques-uns à travailler sur une synthèse en ce moment de cette guerre d'Espagne, hein, pour proposer quelque chose de renouvelé. Pour citer quelques noms de collègues aussi avec qui je travaille, il y a évidemment François Godichaud, que j'ai déjà cité dans le podcast, sur cette connaissance de la Révolution en langue française, et vraiment absolument, et même pour les Espagnols, absolument incontournable pour connaître la situation en Aragon, en Catalogne, sur le maquis dont je parlais, et Mercedes Yusta aussi. Et après, pour avoir une synthèse assez rapide en première lecture, il y avait la revue scientifique 20e siècle qui, je crois, en 2016, si ma mémoire est bonne, avec Elodie Richard et Charlotte Worms, avait fait un numéro sur l'historiographie du conflit et de ses lendemains. Donc on a...
C'est pas là où tu as écrit un texte, toi?
Non, il y a eu après, chez 20 et 21...
Parce que j'ai trouvé sur le Cairn un texte que tu avais fait.
Alors moi j'ai fait, sur plusieurs textes. Il y a,
enfin, j'imagine
que sur 20e siècle est devenu 20 et 21, revue d'histoire. D'accord. Et là j'ai coordonné avec ma collègue Léa Goré un numéro sur le franquisme en hexagone. D'accord. Et il y a notamment un article collectif de réflexion sur le blanchiment de la dictature franquiste depuis la guerre d'Espagne jusqu'à aujourd'hui, des réflexions un peu sur cette offensive d'extrême droite. Et puis il y a aussi un numéro de l'histoire qui a été publié, un numéro spécial dans lequel j'ai participé, mais plein de collègues, et notamment beaucoup d'Espagnols qu'on n'a pas la chance de lire en français, sont présents et offrent une synthèse très complète sur la guerre d'Espagne, ses lendemains, sa mémoire, et c'est finalement, me semble, 128 pages, une synthèse de 128 pages sur le franquisme. Elle n'existe pas en français, donc c'est un numéro très important, il me semble, en attendant les publications à venir. Mais en tout cas, moi j'ai de la chance parce que je continue à travailler, mais je ne suis pas tout seul. On ne peut pas tout porter sur ses épaules, et j'ai plein de collègues. Je pense à Nathan Bertrand Rousselot sur l'aspect diplomatique, Célia Kéren sur l'humanitaire pour la France, mais il y en a d'autres qui arrivent, des nouvelles générations aussi sont en train d'arriver, en train de faire des thèses très intéressantes et ça promet pas mal de publications, il me semble, sur toutes les facettes de ce conflit et de ses suites.
D'accord, bah écoute, on te remercie d'être venu avec nous.
Et c'est moi.
Monique va faire une petite musique musicale pour la fin de l'émission.
Oui, et on va terminer avec des paroles qui, je pense, se trouvent à la fin de ton livre. On se quitte donc avec Léo Ferré, Les anarchistes. Au revoir.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas un sur 100, et que pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.